La vie, c'est un jeu de stratégie dont le but est de gérer tes ressources pour construire une réalité dont tu es fier. Le temps, c'est la ressource la plus importante au début. Donc la clé, c'est apprendre à gérer ses ressources, c'est le temps. Tu dois protéger et le rentabiliser parce que c'est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Construire une réalité dont tu es fier, c'est être heureux et accompli. Quand tu choisis de croire que la vie, c'est un jeu, je trouve que tu vis une aventure qui est enivrante. On vit à une époque formidable, on a des opportunités de fou, on a la chance de faire ce qu'on aime, de bosser avec des gens qu'on admire, d'être en bonne santé, d'avoir tout ce qu'il faut. On est quasiment complètement au contrôle du lifestyle que l'on veut construire, de la vie qu'on veut se bâtir. Et je trouve ça vachement encourageant et vachement kiffant comme message.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Sofiane.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
La patate et toi ?
Bah écoute, en pleine forme, je suis très content de faire cet épisode avec toi, un épisode qui se veut productif, d'où le thème justement. Je pense qu'on va faire comme un récent épisode qui est sorti notamment sur la chaîne YouTube et il y a de ça quelques temps sur les épisodes audio également, une masterclass, cette fois-ci non pas une masterclass de vente mais une masterclass de productivité. On va revenir aussi sur qui tu es, ton parcours, etc. D'autant plus que tu es un des auditeurs également du podcast Le Déclic, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir ici. Sofiane, je vais rapidement te présenter comme j'ai l'habitude. Tu es consultant et formateur en productivité. Tu as développé des systèmes permettant d'accomplir en seulement 4 heures ce que beaucoup font en 8, prouvant que moins peut être plus. On te nomme d'ailleurs le briseur de chaînes. Depuis 2020 maintenant, tu es à la tête de la communauté de la tribu des starters, partageant des méthodes pour maximiser l'efficacité et accomplir plus en moins de temps. Tu as accompagné jusqu'ici plus de 600 entrepreneurs et tu es une référence en productivité dans le milieu notamment du soloprenariat français. Avant de démarrer avec mes questions et commencer par le commencement, j'ai envie de mettre en lumière justement un de nos auditeurs, comme je le fais à chaque fois. Aujourd'hui, on met en lumière le commentaire de Cédric qui nous dit « J'adore ce podcast et la pertinence des échanges. Il devrait être renommé Les Déclics, tellement il y a des choses intéressantes à relever. Le plus frustrant, c'est de ne pas pouvoir prendre des notes quand on l'écoute en voiture, mais ça donne une bonne excuse pour pouvoir le réécouter. » Merci Cédric et merci à toutes et tous pour votre soutien. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme de podcast préférée, ainsi que la note sur Apple Podcasts comme l'a fait Cédric ici. Sofiane, merci d'être avec nous. J'ai envie de démarrer directement et rentrer dans le vif du sujet. Commençons par le commencement notamment de ton parcours. Après avoir travaillé plus de 8 ans dans une ONG, quel a été le moment précis ou l'événement déclencheur qui t'a convaincu de te lancer dans l'entrepreneuriat ?
Alors ouais, en effet... On est sur le déclic, c'est intéressant de parler du déclic qui m'a donné envie, on va dire, de faire une espèce de transition de carrière. J'ai bossé 8 ans ici dans le Pays Basque dans une ONG en tant que chef de projet, dans une ONG de protection des océans. Et en fait, on va dire que le constat que j'ai fait avait été triple à l'époque, c'est-à-dire que moi, je me suis lancé dans cette voie. J'ai toujours été un peu paumé, on va dire. J'ai toujours été partagé entre 3 états particuliers, si je fais un peu d'introspection depuis mon enfance, c'est que j'ai toujours eu la sensation que je pouvais accomplir de grandes choses, une profonde envie finalement de construire une certaine liberté, mais j'ai toujours aussi eu une sensation de perdition un peu totale. J'avais un manque de lecture et de connaissances sur moi-même, je savais pas trop où aller, vers quoi m'engager, etc. Et j'ai eu un parcours scolaire qui a été un peu chaotique et qui illustre pas mal ce que je viens de te dire. Et puis au bout d'un moment, j'ai cru trouver une porte qui était alignée avec qui j'étais, et c'était cette porte de la protection des océans. Moi, j'ai grandi avec cet amour de l'océan dans le cœur. Je viens d'une famille franco-marocaine, donc j'ai beaucoup passé de temps au Maroc, au bord de l'eau, etc. Donc je me suis lancé dans la protection des océans et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette section européenne de cette ONG à Biarritz. Et en fait, pendant que je suis resté dans cette ONG-là et que j'ai un peu gravi des échelons en passant de stagiaire à chef de projet, je me suis rendu compte au bout d'un moment que finalement, encore une fois, c'était pas forcément ce qui m'appelait le plus, la protection des océans. J'aimais faire mon travail, mais finalement, les parties que je préférais dans mon travail, ça allait être encore toutes les parties de structure, d'organisation, etc. J'ai eu aussi une petite réalisation, c'est que finalement, le salaire des ONG ne me permettait pas de vivre la vie de liberté à laquelle j'aspirais. et que peu importe à quel point je pouvais avancer dans ce taf-là, j'avais la sensation de ne pas être où je devrais être, et qu'il y avait un autre endroit qui pouvait m'attendre, en fait. Et le déclic pour moi, il a vraiment été à un moment où j'ai décidé de partir en vacances avec ma copine de l'époque, et en fait je me suis rendu compte que pour partir 10 jours en Grèce, on était allé à l'époque, ça m'avait pris, je ne sais pas si c'était 5 mois, 6 mois d'économie, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, ça a vraiment été un déclic. Ça peut paraître tout con, mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où je me suis dit, bon, je ressens encore une fois que je ne suis pas à ma place, mes aspirations de liberté ne sont pas comblées, je sens que j'ai envie de creuser d'autres choses, et finalement, qu'est-ce que je fais là ? Il faut que je commence à me sortir les doigts et aller regarder qu'est-ce que je peux construire à côté, comment je peux apporter d'une autre façon, de sorte à ce que je puisse être aligné entièrement avec moi-même. Et ça a été le début d'un pivot. Je suis passé par différentes phases, je ne suis pas directement arrivé dans l'infoprenariat. J'ai testé pas mal de trucs différents dans le soloprenariat et dans le business en ligne. Et puis petit à petit, à force d'introspection et de conseils, de lecture de la part des gens qui me connaissaient, je me suis orienté vers ces questions de performance et de productivité.
Alors justement, on va en parler de ce chemin et ce cheminement qui te mène à la productivité, mais en particulier, tu commences par le MLM, puis ensuite tu essaies le dropshipping sans succès. Finalement, ce parcours, ce chemin, je le connais, je l'ai un petit peu vécu, j'ai testé aussi plein d'opportunités entre 2013, 2014, 2015, avant... De prendre la décision de vouloir entreprendre et me donner les moyens d'entreprendre. Mais qu'est-ce qui, toi, finalement, te mène vers la productivité ? Et surtout, qu'est-ce qui fait que peut-être tu n'as pas forcément réussi dans ces différentes opportunités que j'ai citées au préalable ? Parce que ce parcours, ce chemin, c'est le chemin de dizaines de milliers, centaines de milliers peut-être de jeunes qui sont inspirés par ces messages qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou ces podcasts tels que celui-ci et qui finalement se recherchent. Et dès lors qu'ils trouvent le domaine dans lequel ils ont un potentiel, ils peuvent exceller et exprimer justement leur potentiel.
Exactement, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que je pense que le MLM est une porte d'entrée qui est assez intuitive au début. Parce que quand on se lance dans ce nouveau monde dont on n'a pas énormément de connaissances, on nous explique qu'on peut arriver à un endroit où on n'a pas tellement besoin d'avoir de compétences et on peut finalement commencer à se construire une activité en ligne de façon plus ou moins simple, en parallèle d'un taf. Donc c'est un business model qui se porte très bien au début dans l'entrepreneuriat. Personnellement, j'y suis pas resté indéfiniment, tout simplement parce que je me heurtais au fait d'avancer en équipe avec des gens qui n'étaient pas forcément aussi bouillants que moi, qui n'étaient pas forcément aussi engagés dans le process, et au bout d'un moment je me suis fatigué à force que les équipes tourne, etc. Donc je me suis dit, ok, je vais essayer de trouver quelque chose qui dépend uniquement de moi. J'ai ce feu intérieur, j'étais à cette période là quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en parallèle de mon taf, parce que du coup j'ai gardé mon taf en parallèle du business en ligne pendant un peu plus de trois ans. J'avais un dévouement qui était complet à ma quête de liberté. C'est-à-dire que je me mettais des horaires qui étaient de 80 heures par semaine, 60-80. Je me couchais à 20 heures, je me levais à 4 heures du matin. Tous mes week-ends étaient dédiés à ma boîte. Je prenais quasiment pas de vacances. Et en fait, dans ce rythme-là, j'avançais très vite, mais le véhicule dans lequel j'étais me permettait pas d'avancer aussi vite que ce que je voulais. Donc je me suis dit, ok, je vais chercher un truc qui dépend uniquement de moi. Et je me suis orienté du coup vers le dropshipping. J'ai suivi la formation de Yumi à l'époque, parce que je me suis dit à ce moment-là, ok, ça dépendra que de moi, j'ai juste à fournir les efforts, apprendre, continuer à pratiquer, et ça va le faire. Et je me suis aussi un peu épuisé dans le dropshipping, mais ce coup-ci, c'était à cause d'autre chose, c'était un manque de sens, où encore une fois, je faisais face à ce que je t'expliquais tout à l'heure, une sensation de dire, putain, je suis peut-être pas à ma place encore une fois, je sens que j'ai un appel, je sais pas où c'est exactement, mais je sens qu'il y a quelque chose qu'il faut que je creuse. Et du coup, cette transition naturelle vers la productivité et la performance, elle s'est faite quand j'ai entamé une espèce d'introspection pour comprendre ce qui m'animait à l'intérieur, et j'ai commencé à fouiller à l'intérieur de moi, et je me suis pris en pleine tête, ce qui était dans mon angle mort finalement depuis le début, c'était mon obsession pour le temps. Et cette obsession chez moi, elle se matérialisait depuis toujours par une espèce de constante recherche de performance. Parce que la performance, elle me permettait à la fois d'augmenter la qualité et la quantité aussi de mon temps. C'est-à-dire que la performance, ça me permettait d'accomplir plus en moins de temps, ça me donnait plus de temps pour tirer le maximum de mon expérience de vie sur Terre, comme j'aime bien dire dans la tribu des starters, mais la performance, ça me permettait également d'obtenir de meilleurs résultats, de meilleures compétences, de meilleures opportunités, et donc d'avoir plus de qualité de temps dans ma vie quotidienne et une sensation de tirer le maximum de mon expérience de vie sur Terre qui était plus prononcée. Et quand j'ai commencé à voir cette obsession-là, je l'ai vue partout. C'est comme une espèce de pattern, une réalisation, on le voit partout. C'est-à-dire que dans mon taf de chef de projet, ce que je préférais le plus, et c'était finalement tout ce qui était autour de la structuration, de la performance, de la gestion du temps, etc., c'était aussi ce pourquoi on me sollicitait, mes collègues me sollicitaient naturellement. Dans mes facilités naturelles, il y avait le contrôle, la planification, la productivité, les systèmes. Dans ce que mes potes disaient de moi, on m'a toujours dit que j'avais des comportements quasi autistiques avec le temps. Tout était lié, et surtout dans le taf que je faisais quand je procrastinais. Moi, j'aime bien dire, le taf que tu fais pendant que tu procrastines, c'est probablement celui que tu devrais faire jusqu'à la fin de ta vie. Et moi, quand je procrastinais sur les choses que je devais faire, j'étais sur des articles de blog qui avaient attrait à la productivité, des formations qui étaient sur la performance, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais toujours eu cet appel à l'intérieur de moi. Ça m'a mis quelques années pour comprendre aussi quelle était la source de cet appel-là, psychologiquement parlant. Mais j'ai réalisé que cet appel m'avait donné des facilités et que c'était sûrement là que j'allais être le plus impactant et que j'avais le plus à faire.
Ok, très clair. Donc, c'est finalement cette prise de conscience et cette capacité à lire à travers les lignes te concernant que tu te dis... C'est la productivité, la performance qui me stimule le plus. Un autre point aussi qui crée ta singularité finalement, en tout cas qui te définit, c'est le côté solopreneur. Aujourd'hui, tu es solopreneur et tu prônes le soloprenariat. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, premièrement, la différence selon toi entre l'entrepreneuriat et le soloprenariat et nous dire spécifiquement ce qui t'a motivé à choisir ce statut ou plutôt ce mode de vie plutôt que le mode entrepreneur, empire builder?
Ouais, exactement. Alors, c'est la question du soloprenariat vs l'entrepreneuriat, elle est super intéressante, je trouve. Je pense qu'on va en discuter de plus en plus dans les années qui arrivent parce que c'est un terme qui commence à pop-up. J'ai l'impression que le soloprenariat, ça commence à avoir un peu la même vibe que ce que l'entrepreneuriat a pu avoir ces dernières années. Et moi, je tiens à très clair là-dessus, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y a... une activité, un type de business model, un modèle, on va dire, qui est plus efficace que l'autre. Tout est une question de pour quelle métrique tu vas décider de t'optimiser. Moi, personnellement, donc, la différence rapide entre le soloprenariat et l'entrepreneuriat, pour grossir les lignes, c'est que les solopreneurs, contrairement aux entrepreneurs, ont tendance à vouloir travailler tout seuls. Donc, ils ont pas d'équipe, ils travaillent de façon ponctuelle avec certains prestataires ou certains freelance, mais ils s'optimisent constamment pour la liberté. Donc, c'est-à-dire pas d'équipe à gérer, des horaires de travail plutôt réduites et un business qui est tourné autour de leur lifestyle. On va dire que la dichotomie que je vois, c'est que d'un côté, on s'optimise pour la liberté, de l'autre côté, on va s'optimiser pour l'impact. Moi, j'avais partagé un thread qui avait pas mal marché récemment, qui disait « Les salariés sont des humains qui ont choisi la sécurité, les entrepreneurs sont des salariés qui ont choisi l'émancipation et les solopreneurs sont des entrepreneurs qui ont choisi la liberté. » Quand on choisit de s'optimiser pour la liberté, on va très vite se rendre compte que l'entrepreneuriat peut avoir certaines limites. Quand on choisit de s'optimiser pour l'impact et pour construire des choses qui sont énormes, on va très vite se rendre compte que le soloprenariat a certaines limites. Et finalement, on se rend compte encore une fois que le bateau dans lequel on rame, c'est beaucoup plus important que la puissance qu'on va insuffler dans les pagaies. Le potentiel du business model dans lequel on est, il va toujours l'emporter sur une intelligence avisée ou sur des efforts qui sont surhumains. Donc moi, j'invite aux gens à commencer cette réflexion, d'essayer de se dire « Ok, qu'est-ce que je veux au plus profond de moi ? Est-ce que je préfère m'optimiser pour l'impact ou est-ce que je préfère m'optimiser pour la liberté ?» Sachant que ce débat impact-liberté, j'ai pu l'avoir plusieurs fois avec des membres de la tribu des starters, c'est pas tellement un problème qu'on règle, on n'est jamais clairement d'un côté plutôt que de l'autre. C'est pas un problème qu'on règle, c'est un paradoxe qui se gère. On est tous partagés entre ces deux pulsions, en tout cas des discussions que j'ai pu avoir avec des collègues entrepreneurs ou solopreneurs et des collègues qui sont réputés pour avoir pas mal de succès. Personne me dit tous les jours je me réveille et je veux absolument que de l'impact. Et quand je discute avec mes collègues solopreneurs, personne me dit tous les jours je me réveille et je veux absolument de la liberté. L'idée en fait autour de ça, c'est surtout que un matin on va vouloir construire un empire, l'autre matin on va vouloir de la liberté et profiter du fruit de ce qu'on a construit, et on oscille en permanence entre ces deux extrêmes là. L'idée, c'est d'essayer de comprendre dans quel état tu es la plupart du temps. Et moi, personnellement, comme je te l'ai dit depuis mon enfance, c'est que j'ai toujours eu cette obsession pour la liberté. Donc, je me suis vachement posé la question et puis j'ai fini par me dire « Ok, moi, ce qui me caractérise le plus, ça va être cette liberté. Donc, je vais essayer de tout construire pour dépendre le moins de quoi que ce soit et pouvoir avoir une liberté de mouvement la plus totale. » Et c'est pour ça que j'ai choisi un modèle comme le soloprenariat.
D'accord, très clair. Justement, on sent que tu es aligné avec ce modèle, tu as conscience des enjeux, etc. Énormément de gens, lorsqu'ils se lancent, ils se posent plein de questions. C'est des questions que peut-être tu t'es posées pour pouvoir trouver ces réponses aujourd'hui et trouver le modèle qui te correspond le mieux. Pour les personnes qui nous écoutent et qui hésiteraient justement de se lancer dans un modèle plutôt entrepreneur ou solopreneur, Quelles questions, selon toi, doivent-ils absolument se poser? Et ensuite, on va basculer sur justement la philosophie de la productivité, qui est quelque chose d'important pour toi et qui fait aussi ton expertise.
Ok. Alors, je pense que la question à se poser, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire, est-ce que ce qui est le plus important pour moi, c'est de me bâtir une liberté totale, ou est-ce que c'est d'impacter des milliers et des milliers et des milliers de gens? C'est une question qui est difficile, parce que comme je l'expliquais, je pense que c'est jamais très tranché, sauf chez certains profils bien définis. Mais je pense que c'est ce travail d'introspection qui est nécessaire au début, tout en sachant que c'est plus facile de se lancer en tant que solopreneur qu'entrepreneur. Donc moi, je conseille généralement de débuter avec le soloprenariat et si en cours de route, on se rend compte qu'on est limité, de switcher sur l'entrepreneuriat, puisque finalement, c'est plus simple de commencer seul que de commencer par bâtir une équipe, etc. Mais j'aimerais aussi que les auditeurs puissent garder en tête que c'est des conversations théoriques qu'on peut avoir, mais je pense qu'il n'y a rien qui remplace finalement le passage à l'action. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'introspection qui est nécessaire. Tout commence par la clarté, je le répète souvent, et c'est ce qui permet d'avoir vraiment une vie complètement alignée avec qui on est. Mais finalement, ce travail de clarté, qui est un travail d'introspection psychologique, il se fait par... c'est comme s'il se faisait par strates. C'est-à-dire qu'on peut passer un peu de temps à réfléchir, trouver des réponses, mais quand on a trouvé ce pourcentage de réponses, on ne peut pas passer au palier suivant avant qu'on soit passé à l'action. Donc il faut constamment explorer. Donc se poser ces premières questions dont on vient parler. Quand on a un embryon de réponse, on se lance dans une voie qui nous paraît être la bonne et on récolte les réponses en cours de route. C'est finalement ce que j'ai fait, ce que d'autres ont fait, ce que peut-être toi tu as fait aussi, Alec, avec le MLM, avec le dropshipping. Et à un moment donné, on pensait que c'était la bonne réponse et finalement, en empruntant ce chemin, on a réalisé qu'il y en avait une meilleure. Donc il faut aussi éviter, à mon avis, de tomber dans le piège de la surréflexion. Il faut doser et trouver le juste équilibre entre se poser les bonnes questions au départ, mais ne pas y passer trop de temps non plus, parce que la majorité des réponses sont là sur le terrain en cours de route. En tout cas, de mon expérience.
Complètement. Donc, itérer et puis surtout éviter la suraction. D'ailleurs, ça se voit dans le soloprenariat, mais ça se voit aussi dans l'entrepreneuriat. C'est le fait d'itérer tellement souvent différentes actions, différentes stratégies, différentes tactiques, que tu n'as pas suffisamment de temps ou en tout cas de hauteur pour pouvoir déterminer si ces actions ont vraiment un impact et du résultat potentiel. Or, lorsque tu choisis un domaine qui te plaît et où tu es stimulé intellectuellement, mais personnellement aussi, tu vas pouvoir le faire suffisamment longtemps pour avoir des résultats, parce que de toute façon, c'est comme quand tu plantes un navet. Le navet va pas pointer le bout de son nez au bout de 2 jours, mais plutôt au bout de 2 mois. Donc, c'est important quand même d'avoir conscience de ça.
Ouais, exactement.
Je vais rebondir du coup sur la philosophie de la productivité. Revenons donc à ta compétence principale, ou en tout cas ce qui te stimule le plus, ton expertise. En termes de productivité, et ce terme justement productivité est un peu galvaudé, c'est-à-dire utilisé dans tous les sens, souvent mal compris par beaucoup. Comment toi définis-tu personnellement la productivité ?
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
C'est super intéressant que tu poses cette question-là, Alec, et qu'on commence par là, parce que finalement, toute l'essence du travail productif qu'on peut faire par la suite, il dépend de cette définition-là. La productivité, elle a eu une définition pendant des années qui a été tournée autour de l'ère industrielle. C'est une définition bien précise dont on pourra sûrement parler tout au cours de ce podcast-là. Mais finalement, aujourd'hui, je pense que cette définition, elle change parce qu'on n'est plus dans la période industrielle. On a transité vers l'économie du savoir et la productivité ne signifie plus du tout la même chose. Donc moi, à chaque fois que je parle de productivité, j'utilise le terme productivité parce que les gens le comprennent intuitivement, mais en réalité, le terme que je devrais utiliser, c'est le terme efficience. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre quelle est la différence entre trois termes qu'on utilise énormément, qui sont productivité, efficacité et efficience, qui veulent dire des choses complètement différentes. La productivité, aujourd'hui, au sens de ce qu'on emploie dans l'ère de l'économie du savoir et des travailleurs du savoir, qui sont probablement la majorité des auditeurs du Déclic, la productivité, c'est le nombre de tâches qu'on a cochées à la fin de la journée. C'est-à-dire que si j'ai fait 52 tâches à la fin de la journée, j'ai été productif. Si j'en ai fait 3, je n'ai pas été productif. L'efficacité, ça va être la capacité à atteindre ton objectif. Donc, peu importe les ressources que tu vas employer, Si tu as atteint ton objectif à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, du trimestre, de l'année, etc., tu as été efficace. Si tu ne l'as pas atteint, peu importe à quel point tu as été productif, c'est-à-dire le nombre de tâches que tu as accompli, tu n'as pas été efficace parce que tu n'as pas atteint ton objectif. Et l'efficience, c'est un espèce de subtil mélange entre les deux. C'est la capacité à atteindre ton objectif avec le minimum de ressources possibles. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu de la productivité, c'est ça. Quand je parle d'accomplir en 4 heures ce qu'on fait en 8 et du modèle de la journée de 4 heures, c'est de permettre aux gens de se focaliser sur ce qui compte, de réduire leur volume horaire, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais parmi les ingrédients de la productivité, le temps aujourd'hui, c'est un ingrédient qui est le moins pertinent dans l'ère dans laquelle on est en train de vivre. Donc de réduire son volume horaire et d'augmenter son niveau d'impact. Et de vraiment essayer de se sortir de cette culture eux seuls qui crée énormément de problèmes à mon sens aujourd'hui, qui crée notamment des burn-out, hein, qui est le game over de notre aventure entrepreneuriale, puisqu'il faut savoir aujourd'hui qu'on ne se remet quasiment jamais d'un burn-out. Donc c'est vraiment le truc à éviter. Et donc de sortir de cette culture de l'agitation pour arriver dans une culture de l'impact et de l'efficience. Et à mon sens, c'est ce terme-là aujourd'hui qui serait le plus intéressant à mettre en avant, mais qui est un peu trop connoté entreprise, process, etc., qui clique moins. Et c'est pour ça qu'on a tendance à rester sur le terme productivité, qui peut parfois nous induire un peu en erreur.
Complètement. Donc, selon toi, finalement, selon nos objectifs et notre volonté d'impact, il faut savoir distinguer la différence entre efficacité, productivité et efficience, et du coup s'orienter vers l'un des trois ou les trois de la manière la plus efficace possible.
Exactement, c'est-à-dire que il faut, je compte plus aujourd'hui les entrepreneurs et les solopreneurs avec qui j'ai travaillé qui passent des journées de 7-8 heures de taf et au final après le travail qu'on fait ensemble ils sont capables de travailler 4 heures par jour, 4-5 heures par jour et ils se rendent compte qu'ils accomplissent plus en 4 ou 5 heures que ce qu'ils accomplissaient avant en 7 ou 8 heures. Et la raison elle est évidente, c'est juste qu'avant ils étaient productifs, ils accomplissaient énormément de tâches, mais ça manquait de stratégie, de hauteur par rapport à quelles étaient les bonnes choses à faire. On a eu besoin de passer du mindset de faire plus de choses au mindset de faire les bonnes choses, qui est un mindset qui est un peu contre-intuitif, parce que je pense que c'est intéressant de le glisser. On ne naît pas productif, notre cerveau n'est pas programmé pour être productif. On ne naît pas productif, on le devient. Et donc du coup, ce sont tout un set de techniques qu'on va apprendre, de façons de réfléchir par rapport aux choses, de modèles de prise de décision qui vont nous permettre d'avoir une perspective différente sur les choses et de prendre de meilleures décisions. Mais il faut surtout éviter, moi j'essaie de le rappeler souvent quand je discute avec les solopreneurs avec qui je bosse, il faut surtout éviter de tomber dans le piège de la culpabilité par rapport à ce qu'on fait. On n'est pas censé savoir intuitivement comment être productif, c'est un art qui s'apprend, au même titre que les compétences qu'utilisent les solopreneurs dans leur business au quotidien, et c'est une compétence qui par contre donne énormément de leviers. L'avantage de cette compétence, c'est que quand on a compris la logique qu'il y a derrière, on peut la transformer, la matérialiser dans toutes nos activités quotidiennes, et du coup aller récupérer ce temps tout en conservant, voire en accroissant l'impact. Et donc c'est une compétence vraiment que tout le monde peut apprendre, et pour laquelle il ne faut pas culpabiliser au début. Il n'y a pas de bonne façon innée de faire, il y a juste une bonne façon qu'on peut apprendre sur le terrain.
Complètement. Et justement, tu vois, pour des créateurs de contenu comme moi ou pour d'autres que je ne citerai pas forcément ici parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais tu le vois, les plus gros youtubeurs, influenceurs dans l'entrepreneuriat francophone, souvent, une fois ou deux fois par an, ils sortent cette fameuse vidéo, les 10 astuces de productivité, la méthode de productivité qui m'a permis de devenir millionnaire ou autre. Et il y a un grand fantasme autour de ça. D'ailleurs, moi, je le vois à chaque fois lorsque je fais des séminaires ou autre. La première des questions qu'on me pose souvent, c'est quoi ta routine? C'est quoi ta méthode de productivité? C'est quoi le secret qui te permet de faire tout ça? Finalement, il y a une sorte d'illusion ou de grand fantasme, justement, je l'ai cité et je le recite, autour de la productivité. Toi, en tant qu'expert de la productivité et accompagné individuellement ou en groupé bon nombre d'entrepreneurs, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit « Ok, Sofiane, c'est quoi la méthode de productivité ou la méthode qui va me permettre d'être le plus productif ?» Parce qu'encore une fois, on utilise souvent ce terme qui est galvaudé plutôt qu'efficient ou efficace, pour pouvoir mener à bien mes objectifs parce que j'ai le sentiment de ne pas être à mon plein potentiel.
Alors, moi, si on me pose cette question, le point d'entrée que je prends toujours, c'est celui de la psychologie de la productivité. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a toujours ces fameuses vidéos, les vidéos qui font énormément de clics, énormément de vues. C'est des vidéos qui se concentrent sur les outils, les hacks, les systèmes. Pourquoi ? Parce que ça, c'est sexy. Il y a un bénéfice court terme. Notre cerveau, il cherche ça. C'est un peu le syndrome de l'objet brillant. On est toujours en train de courir après la méthode, le logiciel, le système qui va permettre d'enlever tous les problèmes de productivité qu'on a dans notre quotidien. En réalité, ce qui est beaucoup moins sexy, mais ce que je conseille aux gens de faire en premier, c'est de s'initier au mindset de l'humain productif, à la psychologie de la productivité. C'est moins sexy parce qu'il y a moins de modèles, il y a moins de hacks, il y a moins de logiciels sur lesquels on peut cliquer pour se générer des shots de dopamine. Et ça demande en plus d'investir un peu de temps au début. Je dis souvent, la productivité, c'est une courbe en J. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence à investir du temps dans la productivité, on perd du temps. Parce que finalement, on doit mettre du temps de côté alors qu'on est déjà débordé. La plupart du temps, quand les gens font appel à des gens qui s'y connaissent en productivité, c'est qu'ils ont la tête sous l'eau, ils ne peuvent plus respirer. Et les gens leur disent, pour arriver à respirer à nouveau, tu vas devoir dans un premier temps encore moins respirer. Parce que finalement, tu vas devoir investir du temps pour apprendre les bons réflexes. Par contre, ensuite, la courbe en J fait que tes gains en termes de temps, en termes d'impact vont être infinis. C'est pour ça que je conseille aux gens de s'intéresser à la productivité avant d'être sous l'eau et de vraiment le faire par prévention, développer cette compétence-là avant d'être dans la merde, pour parler crûment. Comme ça, au final, quand on arrive dans ces situations-là, on sait s'en sortir, on ne doit pas passer par cette étape un peu désagréable. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est de se pencher sur la psychologie de la productivité. C'est essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il manque de productivité. Donc comment on a transité en termes de société vers une ère industrielle de l'économie du temps vers l'économie du savoir, quelles sont maintenant les composantes de la productivité qui comptent le plus. Une fois qu'on comprend quelles sont ces composantes qui comptent le plus, on peut aller chercher des modèles, des espèces de modèles mentaux, mais aussi des façons de réfléchir qui vont nous permettre de gagner du temps et de gagner de la productivité. Par exemple, pour donner un exemple concret, quand on parle des trois ingrédients de la productivité aujourd'hui, on parle du temps. La productivité, c'est égal au temps fois l'énergie fois l'attention. Comprendre par une analyse historique, on peut peut-être se lancer dedans très rapidement tout à l'heure si ça s'intéresse, comprendre pourquoi le temps aujourd'hui, c'est plus aussi important, mais par contre l'énergie et l'attention, c'est devenu très important, ça nous permet de dire, ok, comment je vais pouvoir optimiser mon énergie et optimiser mon attention au quotidien, et peut-être commencer par là, parce qu'en termes de 80-20, c'est là où je vais avoir un effet de levier maximum sur mes résultats. Donc j'invite justement les gens à ne vraiment pas se dire quelle est la méthode qui va me permettre aujourd'hui de me tirer de tout ça, mais de vraiment de se dire comment je peux reprogrammer mon cerveau pour comprendre quelle est la psychologie de la productivité, qu'est-ce que ça veut dire être productivité aujourd'hui au 21e siècle dans l'ère de l'économie du savoir. Et partant de là, quand j'ai 2, 3, 4 grands principes, je peux comprendre moi-même comment les matérialiser au quotidien. Je peux bien évidemment continuer cette quête et aller chercher des modèles et des systèmes qui s'appuient sur ces principes que j'ai compris et qui me montrent comment on peut les matérialiser dans notre quotidien concrètement. Mais je peux aussi trouver moi-même des petites idées sur comment je peux implanter des petits hacks qui s'appuient sur ces principes fondateurs et qui vont me permettre de gagner en productivité. Et je pense que cette approche mindset, c'est l'approche la plus efficace aujourd'hui, en tout cas des résultats que j'ai pu observer. Chaque fois que j'ai pu travailler avec des gens, si on faisait un focus outil, les gens, ils étaient euphoriques pendant les premières semaines, ils utilisaient de nouveaux outils, ils étaient complètement sous dopamine, et au bout d'un certain temps, ça s'effondrait aussi, parce qu'en fait, les outils ne s'appuyaient pas sur des fondations qui étaient solides. À l'inverse, quand j'ai bossé avec des gens et qu'on faisait un focus sur les fondations, peu importe si je donnais des outils ou pas, quand je reparlais à ces solopreneurs-là 2 mois, 3 mois plus tard, même si on n'avait pas échangé des outils, ils avaient trouvé entre-temps des outils, que ce soit les leurs ou des outils qui étaient utilisés de façon commune, ils avaient trouvé leurs outils qui s'appuyaient sur ces principes de fondation et ils ne tombaient plus dans des problèmes de productivité. Et je pense que c'est là le vivier le plus intéressant en termes de productivité aujourd'hui.
De ton expérience et avec le recul justement que tu as sur les différents accompagnements que tu as fait, quels sont les X principes clés fondamentaux que tu as identifié au fur et à mesure du temps à l'égard de la productivité?
Pour permettre aux gens d'avoir des gains en termes de productivité, c'est ça?
Complètement, ouais.
Ok, alors déjà, le premier principe, c'est celui dont je parlais, donc l'équation de la productivité, temps fois énergie fois attention. Souvent, c'est un déclic pour les solopreneurs avec qui j'ai travaillé, parce que la plupart du temps, les gens ont tendance à penser que la productivité est égale au temps que l'on travaille. Aujourd'hui, on utilise nos cerveaux majoritairement pour travailler, puisqu'on est dans l'ère de l'économie du savoir. Donc le temps n'a plus aucun rapport avec l'argent. L'argent, ça dépend de ta capacité à produire des choses. On n'utilise plus notre corps pour être productif, on utilise notre cerveau. Ça s'utilise de façon complètement différente. Aujourd'hui, les études nous disent que c'est très difficile, voire impossible, de travailler en deep work plus de 4 heures par jour. La dernière étude en date, c'est celle de Carl Erickson, il me semble qu'elle est de 2012, quelque chose comme ça, facilement trouvable sur le web, qui explique qu'on ne peut pas travailler en deep work plus de 4 heures par jour. Donc déjà, de commencer à transitionner, à se dire « Ok, mon focus, ça va peut-être pas être le nombre d'heures que je vais travailler dans la journée, mais comment optimiser mes niveaux d'énergie et d'attention ?» C'est un premier déclic. Évidemment, il y a des techniques pour faire ça. Ensuite, la chose sur laquelle j'insiste quand je commence à travailler avec des solopreneurs et des entrepreneurs, c'est de faire un focus sur le pourquoi. La productivité, c'est pas une fin, c'est un moyen. Être productif pour être productif, je tiens à le dire, c'est strictement et profondément inutile. La productivité, ça va être un véhicule, un outil qui va t'amener vers une destination. Donc, la première chose par laquelle on doit commencer, c'est de se demander où est-ce que je veux aller et commencer à créer ce que j'appelle une vision minimum viable, une sorte de brainstorm sur à quoi j'aurais envie que ma vie ressemble dans toutes mes aires de vie d'ici 5 à 10 ans. Il y a des méthodes pour ça, on pourra rentrer dans les détails tout à l'heure si jamais ça t'intéresse, mais j'invite vraiment les gens à commencer par ce travail d'introspection. Parce que la destination qu'ils vont définir, ça va être par ce prisme-là qu'on va juger toutes les décisions qu'on va prendre au quotidien. Et dans une ère où finalement la définition de la productivité n'est plus le nombre d'heures qu'on travaille et qu'on doit réinventer une définition de la productivité, la meilleure définition de la productivité qu'on peut réinventer, c'est est-ce qu'à la fin de la journée, les actions que j'ai posées me permettent de m'approcher de mes objectifs long terme ? Mais ce qui suppose du coup en premier lieu de passer du temps à définir ces objectifs long terme. Et ensuite, une fois qu'on a les objectifs long terme à 10 ans, de pouvoir fonctionner par un système de cascade et de revenir vers un horizon temporel plus proche et donc définir ses objectifs annuels puis ses objectifs trimestriels et ensuite du coup jauger sa productivité quotidienne par le prisme de est-ce que j'ai avancé aujourd'hui sur mes objectifs trimestriels. Donc ça, c'est également un principe que j'invite les solopreneurs à se pencher dessus, c'est-à-dire commencer par le pourquoi et se poser obsessivement cette question de pourquoi je veux être productif ? Où est-ce que je veux aller ? D'abord diriger, ensuite gérer. Donc les trois ingrédients de la productivité dont j'ai parlé. Après, je pense que ce qui est super intéressant, c'est de passer du mindset de faire plus de choses à faire les bonnes choses. Et donc là, on peut commencer à parler de la différence entre les tâches d'impact et les tâches support. Je ne sais pas à quel point tu veux que je développe sur toutes ces questions, Alec, ou si tu veux juste que je donne quelques pistes de réflexion.
Ça peut être intéressant justement que tu développes quand on rentre dans le concret pour que chaque personne qui écoute ce podcast, si c'est un vrai sujet pour eux, la productivité, ils puissent au minima le comprendre et l'implémenter dans leur business.
Ok, super. Donc, je pense qu'il y a, deux choses qu'on peut creuser qui sont très intéressantes et qui prennent un peu de temps. C'est déjà passer du mindset de faire plus au mindset de faire les bonnes choses. Évidemment, tout le monde a déjà entendu ça. Arrête de faire plus, fais plutôt les bonnes choses. Mais quand les gens se demandent qu'est-ce que ça veut dire faire les bonnes choses dans mon business, comment je peux savoir est-ce que je fais les bonnes choses ? Il y a deux types de tâches quand on parle de productivité. On a ce qu'on appelle des tâches d'impact et des tâches de support. Les tâches d'impact, c'est ce qu'on appelle les tâches qui sont responsables du succès. Brian Tracy, qui est un éminent consultant en productivité, il dit « Peu importe combien de choses différentes tu fais dans ta semaine ou dans un mois, il n'y a que trois tâches ou activités qui comptent pour 90% de la contribution que tu apportes dans ton business. » Et il appelle ça la règle de trois. Donc ces tâches d'impact, les découvrir en tant qu'entrepreneur, c'est une condition sine qua non pour être productif. Si tu ne sais pas quelles sont tes tâches ou tes activités d'impact, tu ne peux pas juger au quotidien est-ce que tu es productif ou pas. Il y a un protocole en quatre étapes que je trouve très intéressant à donner aux auditeurs pour les définir et qui a eu beaucoup de succès au sein de la tribu des starters, c'est de se poser quatre questions. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lister toutes les tâches et toutes les responsabilités que l'on a, toutes les tâches que l'on fait au quotidien et dans une semaine et toutes les responsabilités que l'on a au quotidien et dans une semaine. Une fois qu'on a ces tâches sous les yeux, on va se demander si je ne pouvais faire qu'une tâche de cette liste toute la journée, laquelle apporterait le plus de valeur à mon business ? On va noter la première tâche, puis on va se reposer la question une deuxième fois. Si je ne pouvais à nouveau faire qu'une tâche sur cette liste, maintenant que cette tâche-là est isolée et qu'elle a été notée, qu'elle est retirée de la liste, quelle serait cette seconde tâche que je pourrais faire qui apporterait le plus de valeur à mon business ? Et on va se poser la question une troisième fois. Et au bout de ces trois questions-là, on va avoir trois tâches d'impact sur lesquelles on est censé dériver 80% de nos ressources au quotidien, c'est-à-dire de notre temps, de notre énergie et de notre attention. Ces tâches à impact, c'est cool de prévenir, je pense, à ce niveau-là, c'est que ce sont souvent des tâches qui sont désagréables parce que ce sont des tâches qui rassemblent le plus de déclencheurs de procrastination. C'est-à-dire que c'est des tâches qui nous font peur parce que c'est des tâches qui sont généralement impressionnante, on va dire, et qui demande énormément d'énergie pour être faite. Et comme elle demande énormément d'énergie pour être faite, notre cerveau, qui est naturellement câblé pour la procrastination, a tendance à vouloir les éviter. Sauf qu'une fois qu'on les a conscientisés, on les a notés sur une liste et on les a sous les yeux, ça nous permet de ne plus utiliser de techniques pour éviter de les voir, et on les a sous les yeux au quotidien, on sait qu'on peut se concentrer là-dessus. Par exemple, pour un solopreneur qui est dans l'infoprenariat, ces trois tâches à impact, ça pourrait être, ok, créer du contenu gratuit, puisque c'est ce qui permet de faire de l'acquisition de trafic au quotidien, créer du contenu payant, parce que c'est ce qui permet de ramener du chiffre d'affaires dans la boîte, et apprendre au quotidien, puisque c'est ce qui me permet de constamment développer mes compétences et donc de pouvoir redistribuer ces compétences à ma communauté. On sait maintenant qu'au quotidien, puisque j'ai ces trois tâches qui ont été mises en avant, au quotidien ou au niveau de la semaine, 80% de mes ressources doivent être dictées dans la création de contenu gratuit, de la création de contenu payant et de l'apprentissage pour que je puisse constamment élever mon niveau de compétence. À côté de ces tâches d'impact, on va trouver des tâches support. Les tâches support, c'est le mal nécessaire. C'est-à-dire, c'est des tâches à faible valeur, mais qui sont nécessaires pour entretenir ton business. C'est-à-dire, ça va être de l'administratif, ça va être de répondre à des calls, ça va être de répondre à des mails. C'est toutes ces tâches qui empêchent ton business de s'effondrer, à travers lesquelles tu ne peux pas passer. C'est des tâches qui ont pour but, de lutter contre la loi de l'entropie. La loi de l'entropie qui est une loi de thermodynamique qui dit que tout système organisé non entretenu est voué à revenir à son état d'origine, qui est la dispersion et le chaos. Bon, mais ton business aujourd'hui, c'est un système qui est entretenu. Il est entretenu majoritairement par tes tâches support. Si jamais tu arrêtes de les faire, il s'effondre. Donc, ces tâches-là, on est obligé de les faire. La meilleure façon de les gérer, c'est de compresser les ressources qu'on leur accorde. Donc, quand on a une clarté sur les tâches support, toutes ces tâches finalement qui servent à maintenir le statu quo et qui ne servent pas à enregistrer une percée, tâche d'impact, c'est enregistrer une percée, aller atteindre des résultats qu'on n'a pas encore eu dans notre business, aller atteindre nos objectifs. Tâche support, c'est maintenir le statu quo. Mon business, il est stable comme ça. Il faut que je continue à faire un certain nombre de tâches pour le maintenir. Ben, quand on a de la clarté sur ça, on en revient à ce que je disais au début, tout commence par la clarté. On sait au quotidien vers quoi on doit accorder notre attention et on peut commencer à structurer notre semaine, à passer avec un mindset beaucoup plus architectural plutôt qu'un mindset par défaut où on se lève le matin et on traite un peu les urgences de la façon dont elles arrivent. Et on rajoute de l'intentionnalité dans ce qu'on fait au quotidien. On peut évoluer beaucoup plus naturellement vers des comportements productifs. Ça fait sens, ça, Alec, pour toi ?
Extrêmement, extrêmement concret, ouais. Effectivement, okay. Extrêmement concret. Et ça permet, en fait, de mettre en lumière deux choses. Alors, la première, c'est une question. La seconde, c'est un constat. Je commence par mon constat. C'est que finalement, tu sais, souvent, on a ce truc de « Ok, les tâches urgentes, importantes, les tâches moins urgentes, moins importantes, puis aussi les tâches à haute valeur ajoutée, tu vas déterminer quel est ton taux horaire moyen à toi en tant que personne, et puis du coup, les tâches qui vont coûter plutôt 10 euros, plutôt 100 euros, plutôt 1000 euros, plutôt 10 000 euros, plutôt même inestimables et qui vont créer une vraie différence dans ton business. Et ce n'est pas forcément des concepts que tu as directement cités ici. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà dans des tactiques, ce que je viens d'évoquer, alors que toi, on est dans des fondamentaux et une vraie philosophie. Et c'est ça que je veux mettre en lumière justement dans ta façon d'expliquer les choses, qui fait que finalement, et c'est quelque chose que j'ai évoqué en début d'épisode, c'est quelque chose que tu partages régulièrement aussi sur tes réseaux, c'est que tu évoques le fait que la productivité devient non pas une méthodologie ou des tactiques, mais un art de vivre, une façon de voir les choses et qui change complètement les choses dans ta compréhension de ce qu'est la productivité, l'efficacité et l'efficience, parce que finalement tu changes presque d'identité et donc tu deviens quelqu'un de productif. Et ça, c'est très important et c'est peut-être un des insights vraiment importants à retenir de cet épisode. Et l'autre point, c'est plus une question. Imaginons que je me dis waouh, c'est incroyable ce que tu nous partages, Sofiane, c'est vraiment génial. Moi, j'ai vraiment ce problème de ne pas réussir à être productif, être efficace, être efficient. Et tu vois, l'efficience par exemple fait partie de mes valeurs et fait partie des valeurs chez entrepreneurs.com. Donc, je vois exactement de quoi tu parles. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure en off. Notre directeur des opérations fait partie de tes clients également et était très content de nous recommander ta présence dans le podcast Le Déclic. Et ma question, c'est imaginons que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et que j'ai une incapacité presque chronique à finalement accepter l'imperfection ou accepter le fait de cliquer sur le bouton, ce qui fait que je me ressens pas du tout productif et que je perds un temps considérable dans chacune des choses que je veux mettre en place. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ? Qu'est-ce que tu me dirais pour peut-être arrêter d'être victime de ce biais ?
Alors, pour le perfectionnisme, ouais, alors c'est une question. Déjà, merci beaucoup, Alec, d'avoir résumé un peu le côté mindset, parce que tu as tout à fait compris le message que j'essaie de passer, et d'éviter de trop parler de tactique et de rester dans du conceptuel pour bien comprendre les fondements de la productivité. Il y a encore plein de points qu'on pourrait développer comme ça sur des petits modèles et sur lesquels on va peut-être s'attarder dans les prochaines minutes. Mais c'est vraiment ça qui est important, de s'approprier ces concepts-là et de les comprendre. Moi, j'ai l'obsession du pourquoi. Je fais aussi pas mal de recherches en termes de productivité pour essayer de comprendre les rythmes naturels de l'être humain, comment se comportaient nos ancêtres, comment ils évoluaient dans la société, quel est le rythme optimal sur lequel on peut se câbler. J'ai cette croyance que si on a pu survivre pendant des milliers d'années avec un certain nombre de fonctionnements, c'est que c'est le mode de fonctionnement optimal. On parle beaucoup de productivité ici. Une question qui m'obsède également, c'est le bonheur. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout pour but d'aider les solopreneurs à devenir des robots et finir leur vie en ayant accompli des choses énormes et en ayant été malheureux tout au long du chemin. Le but pour moi, c'est d'essayer de créer une productivité au service de ta vie, au service de ton bonheur et de ton accomplissement. Donc les questions de rythme naturel et de comment on fonctionne naturellement à son état optimal l'être humain, c'est des questions qui me fascinent et qui me passionnent parce qu'elles permettent de réconcilier cette production accrue d'insight de qualité avec une sensation d'alignement et de bien-être au quotidien, de bonheur vraiment, qui permet de se dire « Ok, je kiffe ma vie, je kiffe ce que je fais et je me sens vraiment pleinement là où je devrais être, au moment où je devrais l'être. » Et c'est pour ça que se pencher sur ces principes-là, c'est très intéressant. Pour la question du perfectionniste, alors c'est une question à laquelle j'ai été beaucoup confronté. Je pense que, alors ça se sent ou ça se sent pas, les gens qui me connaissent le savent, je suis un gros perfectionniste dans l'âme. J'ai dû déployer énormément d'efforts pour sortir de ce mindset-là. Je pense que ce mindset de perfectionniste, ça prenait source dans des insécurités. Au début, on est beaucoup perfectionniste. C'est Gary Vee, je crois, qui dit ça, que le perfectionnisme, c'est des insécurités déguisées. Au début, on est beaucoup perfectionniste parce qu'on se dit « j'ai peur d'être jugé sur la qualité du travail que je vais produire ». Donc en quelque sorte, je n'ai pas une confiance en moi pour le moment, une estime de moi qui est suffisante pour subir les remarques des gens quand je vais produire un travail. Donc je dois absolument faire en sorte que ce travail soit bulletproof, de sorte à ce que quand ils sortent, personne ne puisse m'attaquer sur n'importe quel angle, parce que sinon finalement, ils arriveraient à voir à travers mon travail qui je suis vraiment et qui on pense que l'on est vraiment. Ben, c'est finalement cette version insuffisante de nous-mêmes que nous, on pense que nous sommes, mais que généralement, les gens ne pensent pas qu'ils sont. Donc, il y a toute cette question de sentiment d'insuffisance qui est super intéressant et que j'ai pas mal creusé ces dernières années. Je pense que le shift du mindset de perfectionniste vers le mindset de productif, il s'est fait de par la compréhension que j'ai eue de se dire, ok, finalement, être perfectionniste, ça n'est pas être productif. Et être perfectionniste, c'est massacrer le temps que j'ai dans mes journées sur des choses qui ne comptent absolument pas. Et c'est finalement perdre ce dont la vie est faite, c'est le temps. Et quand j'ai réussi à rebrander ce truc-là en me disant, ok, Sofiane, t'es obsédé par le temps, mais tu te comportes comme un perfectionniste. Il y a une espèce de paradoxe dans ce que tu es en train de faire. Le perfectionnisme te fait perdre du temps. Tu passes finalement 20% de ton temps à avoir 80% de la qualité du travail et après tu vas me dire que tu vas passer 80% de temps supplémentaire à avoir les 20% qui terminent la qualité de ton travail. Il y a que toi qui vas le voir. Et finalement, c'est dans un niveau de détail que les gens ne vont jamais voir. Et ces 80% de ressources, tu aurais pu les attribuer à d'autres projets qui auraient encore plus eu d'impact et qui t'auraient permis de contribuer beaucoup mieux et d'avancer plus dans différentes aires de vie. Et donc du coup, j'ai dû, et c'est ce que je conseille aux gens, pratiquer la sortie du perfectionnisme. Le perfectionnisme, on en sort quand on réalise, on a une espèce de déclic, on peut le dire, comme le déclic que j'ai eu par rapport à la perte de temps. Mais après, le déclic ne suffit pas, il faut pratiquer. Et donc du coup, je me suis renseigné sur pas mal de grands créateurs, sur comment ils opéraient au quotidien pour sortir de ce piège-là. Et le piège, la technique secrète, je pense que tout le monde va la voir venir, c'est de s'entraîner à créer du travail médiocre tout simplement et de le shipper dès qu'il est là. Il y a une règle dont on parle souvent en perfectionnisme, la règle du 70-20-10, c'est que 70% de ton travail sera médiocre, quoi qu'il en soit, 20% de ton travail sera nul et 10% de ton travail sera excellent. Si tu n'as pas honte de la première version de ton travail, c'est que tu l'as sorti trop tard. C'est une phrase qui est utilisée par Ryan Rolansky, qui est le PDG, l'ancien PDG de LinkedIn, et qui montrait encore une fois l'importance du try and learn et de cette capacité à shipper rapidement les choses et ensuite les améliorer par le process d'itération dont toi-même tu parlais, Alec, il y a quelques minutes auparavant. Donc il faut en fait s'entraîner à se dire « Ok, je ne vais pas être jugé dans l'immédiat sur cette qualité du travail qui n'est médiocre que dans ma tête » parce que j'ai un tel niveau d'exigence que dans tous les cas, il est médiocre que dans ma tête, et je vais m'entraîner progressivement à shipper, à shipper, à shipper. Je me dis, c'est pas parfait, c'est pas grave, je livre quand même. Et quand on passe par ce process-là, on se rend compte que quand on livre quelque chose qui nous paraît pas parfait, personne ne le voit. Personne ne le voit parce qu'en fait, c'est nos exigences dans notre tête qui vont nous amener à perdre des ressources sur des choses qui comptent moins. Donc l'idée, ça n'est pas d'être perfectionniste au premier coup, et c'est peut-être ce modèle mental qui peut être intéressant, mais d'être perfectionniste au cinquième ou au sixième coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sors d'abord la V1, la V1 ne sera jamais parfaite, mais par contre, elle sera déjà là, tu auras du retour, tu auras un feedback qui va te permettre de l'améliorer, et au bout de la V6, tu t'approcheras de ce qui s'appelle quelque chose de parfait. Mais si tu cherches à l'aide dès la V1, tu vas perdre du temps, tu vas perdre des ressources, et finalement, tu vas droit dans le mur, malheureusement, parce que tu n'arriveras pas à avoir l'impact que tu veux avoir. C'est pas la méthode la plus efficiente, pour le coup, d'arriver à produire un travail qualitatif.
Ouais, complètement. Et justement, tiens, ça me fait rebondir parfaitement sur la notion de multitasking. On parle beaucoup du multitasking dans une ère où on doit avancer vite, quotidiennement, produire rapidement. Comment est-ce que toi, tu prônes l'approche de concentration pour booster la productivité et l'efficacité lorsque tu dois multitasker? On dit souvent qu'on doit faire du pomodoro, on dit souvent qu'on doit être focus, on dit souvent qu'on doit réussir à faire abstraction de toute distraction. Moi, tu vois, par exemple, ça fait, je crois, quelque chose comme 4-5 ans que j'ai supprimé les notifications de mon téléphone. Dans ton cas, comment est-ce que tu vois les choses par rapport au multitasking?
Alors, le multitasking, c'est vraiment le fléau des temps modernes. C'est très complexe. C'est toujours une question très compliquée qu'on aborde avec les solopreneurs avec qui je travaille, parce qu'en fait, le multitasking a quelque chose de très perfide, c'est qu'il nous fait sentir productif. Et sur cette question de multitasking, je pense que tu l'as peut-être déjà entendu, Alec, on tombe toujours sur des gens qui nous disent « Oui, mais moi, je suis multitasking parce que moi, je suis un multitasker parce que moi, j'arrive à faire ça et je fais partie des rares qui fonctionnent comme ça. » Tout ça, ça vient d'une étude qui avait été menée, il me semble, dans les années 90, qui avait montré que je crois que c'était 1% de la population mondiale qui était efficace dans le multitasking. Et bizarrement, à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, je tombe dans ce pourcentage-là parce que tout le monde me dit qu'ils sont efficaces en termes de multitask. La plupart du temps, ils sont pas efficaces en termes de multitask. Ils pensent être multitasker. L'étude la plus intéressante sur le sujet et qui pour moi clôt le débat à jamais et permettra aux gens de se dire « Ok, c'est bon, j'arrête le multitasking, c'est terminé » puisque dans tous les cas, ça a été prouvé. C'est une étude qui a été conduite en 2009 par Eyal Ophir et Anthony Wagner et qui est une méta-étude. En fait, avant cette étude, tout le monde scientifique s'accordait à dire qu'on ne pouvait pas faire plusieurs choses à la fois. Le truc, c'est que comme certaines personnes continuaient à prétendre et à prétendre être plus productives en multitaskant, ces deux chercheurs-là, ils ont décidé de mener une méta-étude, une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse de plusieurs analyses, et d'essayer d'aller regarder qu'est-ce qui se passe une bonne fois pour toutes. Donc d'abord, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé si les multitaskers, ils étaient meilleurs pour ignorer les informations qui étaient non pertinentes pendant qu'ils étaient en train de travailler. Ils n'étaient pas meilleurs dans ça. Ensuite, ils ont testé si les multitaskers, ils étaient meilleurs dans le stockage et l'organisation des informations, ou s'ils avaient une meilleure mémoire. Ils n'avaient rien de tout ça. Ensuite, ils sont allés tester si les multitaskers étaient meilleurs dans la capacité à alterner d'une tâche à l'autre. Et évidemment, ils ne l'étaient pas. Et c'était même pire que ça. On disait que les light multitaskers, donc les multitaskers légers, avaient l'air d'être meilleurs dans l'art du multitask que ceux qui faisaient tout le temps du multitask. Et ils ont conclu cette étude-là que les multitaskers sont moins bons que les monotaskers à tout les niveaux. Il n'y a pas un seul niveau où les multitaskers sont plus efficaces, plus performants et créent du travail plus qualitatif que les monotaskers. Le vrai problème, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, les multitaskers, ils ont l'impression de mieux performer parce que leur cerveau est plus stimulé. Mais dans chaque étude qui a été menée depuis les dernières décennies, ils performent moins bien. Multitasker, ça fait du bien. Parce qu'en fait, ça stimule ton cerveau, et le problème des techniques qui te rendent improductif, c'est qu'elles te font sentir productive parce que ton cerveau est plus stimulé. Donc les gens, quand ils sont dans le multitask, et si t'en as déjà un peu fait, Alec, moi j'en ai souvent fait avant de comprendre ça, je me sentais mais comme un surhomme, j'enchaîne entre toutes les tâches, je me dis putain, j'avance partout, c'est incroyable. La réalité, c'est que c'est pas du tout incroyable, je suis pas productif, mon cerveau est surstimulé et me fait sentir productif, mais je ne suis pas productif et je perds énormément de ressources à faire ça. Il y a des études qui te montrent qu'à chaque fois que tu rajoutes une tâche en parallèle de la tâche que tu es en train de faire, tu perds 20% de productivité. Donc chaque tâche supplémentaire faite en parallèle nous enlève 20% de productivité. C'est une étude qui avait été conduite par Gerald Weinberg de mémoire. Ce qui fait que quand tu arrives à 5 tâches en parallèle, tu as 80% de perte. C'est massif. Donc j'invite vraiment les gens à sortir de cette idée, de cette phrase quasi identitaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une fierté, ça vient avec ce fait qu'on porte le fait d'être occupé aujourd'hui et de faire énormément d'heures comme une médaille et comme un badge d'honneur dans la société. On confond complètement être productif et être occupé, et c'est complètement relié à la tendance multitasking où les gens vont fièrement arborer le fait que eux ils arrivent à faire plusieurs choses en même temps. Mais j'invite vraiment les gens à rebrander le narratif qu'il y a derrière. Il n'y a rien vraiment d'exceptionnel à multitasker, tout le monde peut le faire. C'est juste que toi tu penses que tu es productif en le faisant, alors qu'en réalité les études vont dans le sens du fait que tu ne l'es très certainement pas. Il y a a peu de chances que tu fasses partie des 1% qui le sont. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la productivité, sur le multitasking, pardon.
Complètement. Ouais, complètement. Et tu mets en évidence un point extrêmement intéressant, finalement, c'est que il y a presque une sorte de fierté à dire qu'on est en capacité de multitasker, un petit peu comme il y a une fierté à dire qu'on va dormir peu, alors que finalement, on sait que le sommeil, ça fait partie, c'est une partie clé, justement, de l'efficacité, ou en tout cas de la performance. Un autre point, justement, que j'avais envie d'évoquer, c'est que tu mets souvent l'accent sur le fait qu'on peut être productif sans passer des heures derrière un ordinateur, tout en produisant plus que 95% des gens. C'est un peu... ça va un peu aux antipodes des idées reçues. Moi, tu vois, quand tu me dis ça, je m'imagine que la personne va bosser beaucoup moins que d'autres et va être en train de faire plein d'autres choses. Et c'est ce que je pense la plupart des gens vont penser. C'est lié aussi au fait que certains ne sont pas forcément autant éveillés en termes de niveau de conscience à ce qu'est réellement la productivité, l'efficacité, l'efficience et notamment le multitasking, pour ne citer que ça que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu peux aller plus loin dans cette philosophie que représente cette phrase pour donner plus de détails, plus de profondeur et peut-être donner un exemple concret?
Ouais, bien sûr, je te remercie de me donner l'opportunité de parler sur cette question-là, Alec, parce que c'est une question qui est très importante, parce qu'on s'attaque encore une fois à un mythe qui a la peau dure, parce que imprégné dans la culture eux seuls, etc., dont j'ai moi-même été partisan pendant des années. Je me suis toujours très identifié à, et je m'identifie encore beaucoup à tout ce qui est high performer, etc., et c'est un discours que je vois énormément, cette force brute de frappe, de travailler des heures et des heures et des heures. La réalisation que j'ai eue, c'est que plus j'ai creusé dans le corpus de recherche scientifique qui était lié au temps de travail et à la productivité, plus je me suis rendu compte à quel point on était complètement à côté de la plaque. Il y a un gars qui s'appelle Chris Bailey, qui a écrit un livre sur la productivité et qui s'appelait The Productivity Project, il me semble, de mémoire, qui a mené toute une série d'expérimentations pour essayer de comprendre quand est-ce qu'on pouvait être plus productif. Une de ces expérimentations-là, c'était de travailler des volumes d'horaires différents. Il a tenté pendant de nombreuses semaines un rythme de travail de 20 heures par semaine et ensuite il a testé un rythme de travail de 90 heures par semaine. Ses conclusions, c'est qu'il dit « j'ai accompli à peine plus en 90 heures qu'en 20 heures ». Il l'explique évidemment par une loi qui, à mon avis, toi, tu seras très familière, Alec Henry, qui est la loi des rendements décroissants. C'est-à-dire que chaque heure de travail ne se vaut pas. Donc évidemment, passer un certain stade, quand t'as passé les 4 heures de deep work dont on est apparemment capable, selon l'étude de Carl Erickson, ben, en fait, ça décroît. Donc on passe beaucoup de temps à créer quelque chose qui a moins de valeur. Et il explique qu'à 90 heures par semaine, en fait, il se rendait compte qu'il y avait de moins en moins de choses qui semblaient urgentes. Et donc, il investissait moins d'énergie et d'attention dans les heures qu'il travaillait. Là, on va retrouver la loi de Parkinson, encore une fois. Donc, les tâches ont tendance à prendre le temps que tu leur donnes. Alors qu'en 20 heures par semaine, il investissait énormément d'énergie pour faire des tâches à haute valeur. Il allait à l'essentiel parce qu'il avait que très peu de temps finalement pour le faire. Et du coup, il arrivait à accomplir énormément de choses par rapport à ce qu'il accomplissait quand il travaillait 90 heures par semaine. Il y a eu à peine une petite différence de productivité. Et on en vient à ce modèle mental de la chasse au lion dont parle Naval Ravikant, qui est un des esprits, à mon sens, le plus brillant du 21e siècle, et qui explique que le rythme idéal de travail, ça ressemble plus à une chasse à lion, c'est-à-dire sprinter, se reposer, réévaluer, resprinter. C'est Naval, ça a été un gros défenseur de la sortie du rythme de 80-100 heures par semaine. Il disait que c'était du signalement de statut inefficace, que c'était de la frime, mais que personne ne pouvait vraiment travailler 80 heures par semaine, que c'était impossible, que ton cerveau allait se décomposer. Et finalement, quand on creuse dans la littérature des plus grands esprits de ce monde, et c'est là où je ne saurais pas dire à quel moment on a réussi à rebrander tout ça, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est persuadé que pour créer du travail qui a une très haute valeur, il faut travailler comme un bourrin de nombreuses heures dans notre journée. La vérité, c'est que quand on regarde ce qu'on considère aujourd'hui comme des pointures de l'humanité, je prends des gens comme Einstein, De Vinci, Darwin, etc., très peu d'entre eux travaillaient plus de 4 heures par jour. Et si c'était plus de 4, c'était 5. Albert Einstein, il passait des heures chaque jour sur sa barque à laisser son esprit divaguer, à rien faire. Paul Simon, qui est un gars qui a écrit, un grand compositeur qui a écrit notamment la chanson The Sound of Silence, il écoutait l'eau de son bain couler dans sa salle de bain, lumière éteinte, pendant de longues heures le soir sans travailler. Charles Darwin, il travaillait rarement plus de 4 heures par jour, il passait le reste de sa journée à marcher, à lire, à se reposer. On parle quand même du gars qui a créé la théorie de l'évolution. On a Henri Poincaré, le célèbre mathématicien qui travaillait 4 heures par jour et qui a publié pourtant une trentaine de livres et plus de 500 articles dans sa vie. On a des romanciers comme Anthony Trollope qui écrivait que 4 heures par jour, Victor Hugo, Stephen King, etc. etc. Et en fait, on se rend compte que c'est comme si on nous avait vendu le fait qu'aujourd'hui, pour produire des insights de qualité et faire partie des esprits les plus brillants de ce monde, il fallait charbonner comme un fou. Mais quand on va vérifier historiquement ces histoires-là, on trouve que très peu d'exemples de gens qui ont atteint ce succès-là par de la force brute. Mais on trouve beaucoup de gens qui ont atteint ce succès-là par la précision de leur frappe. C'est-à-dire, ils se disaient à chaque fois, j'ai 4 heures dans ma journée, ces 4 heures, elles doivent compter, je vais mettre toutes mes ressources là-dedans, et quand ces 4 heures sont finies, c'est fini. Je vais aller explorer le monde. Et on retrouve ici le modèle de la journée de 4 heures, on en parlait un peu en introduction, dont je parle souvent, où j'explique que 20% de ton temps doit être en deep work et 80% de ton temps doit être en recherche. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les 20% de ton temps en deep work, c'est ici que va faire sens toutes les techniques, les systèmes et les stratégies qu'on apprend au quotidien dans la tribu des starters. On va apprendre à augmenter la valeur de ce qu'on est capable de produire dans une heure. On va apprendre à exploser le ROI de horaire de nos vies, en fait, pour être capable, en 4 heures, de fournir du travail de très haute qualité. Pendant ces 4 heures-là de deep work, on extrait le fruit de nos expériences, de nos apprentissages qu'on a pu avoir tout au long de notre vie, on les redistribue au monde. 80% de notre temps ensuite est dédié à la recherche. Et la recherche, c'est tout ce dont je viens de parler avec ces grands auteurs, ce sont des activités récréatives qui referment le fossé entre qui tu es et qui tu veux devenir. Donc des activités qui consistent à expérimenter, découvrir, pratiquer, sociabiliser. Moi j'habite dans le Pays Basque, donc je vais dire c'est surfer, mais c'est aussi se baigner dans des lacs gelés, c'est avoir des discussions profondes, passer du temps avec ceux qu'on aime, découvrir un nouveau domaine qui n'a rien à voir avec notre business, faire de l'introspection, jouer de la musique, partir en voyage, soigner ses blessures, se laisser porter par là où la vie nous mène. Et en fait, toutes ces activités de recherche que pratiquaient ces grands penseurs de l'ancien temps, c'était des activités qui venaient nourrir leur esprit, qui leur permettaient de faire des ponts, et quand ils étaient en deep work, ils connectaient tous ces dots et ils le redistribuaient dans du travail hautement qualitatif, ce qui leur permettait, en travaillant 4 heures par jour, de marquer le monde. Encore une fois, je ne suis pas en train de citer des gens qui sont tombés dans les oubliettes, je suis en train de citer des gens dont tout le monde fait des éloges aujourd'hui. Et donc, c'est très intéressant de voir cette espèce de paradoxe qu'il y a, qu'on est persuadé intuitivement, sans trop jamais se poser la question aujourd'hui, que pour avoir un impact durable et significatif sur la société, il faut bosser comme un bourrin, mais que quand on va chercher des preuves historiques de tout ça, on n'en trouve que très peu. Et ça, je trouve ça fascinant.
Ouais, c'est vrai, c'est bien de le mettre en évidence, notamment, tu vois, on parle souvent d'exemples comme Elon Musk, par exemple, où on pense qu'il bosse énormément. Finalement, il a un vrai équilibre pro et perso. D'ailleurs, l'équilibre pro et perso, on en parlera dans l'épisode dans un instant. J'ai envie de revenir sur un sujet. Tu te présentes comme l'ambassadeur de la journée de 4 heures et non la semaine de 4 heures. Pourquoi ce modèle t'inspire tant? Comment tu l'as mis en pratique dans ta propre vie et quel effet cela a eu sur toi, sur tes clients que tu accompagnes?
Alors, pourquoi la journée de 4 heures plutôt que la semaine de 4 heures, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En gros, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi ce modèle t'inspire tant?
Ok, d'accord. Alors, pourquoi pas la semaine de 4 heures déjà? Parce que j'ai essayé. C'est très compliqué. Alors, je pense que de toute façon, Tim Ferriss le dit lui-même. Semaine de 4 heures, ça a été popularisé par son livre, bien évidemment. Il voulait le titre du livre comme quelque chose de provocateur pour bien montrer que c'était possible de réduire drastiquement le temps sur lequel on travaille aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant de le voir aujourd'hui quand on parle d'expertise en productivité, de Cal Newport ou de Greg McOwen ou peu importe, des gens qui vraiment étudient la science de la productivité, tous ces gens-là prônent des journées réduites. Cal Newport dans son livre Slow Productivity, Greg McOwen dans son livre Essentialiste, etc., etc. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a un consensus de la part des experts sur ce sujet-là pour la réduction du temps de travail. Même si, évidemment, et je te remercie de l'avoir mis en avant parce que je n'aurais pas pensé à en parler, on nous met sur le devant de la scène des exemples comme Elon Musk, comme Gary Vee, comme des gens comme Steve Jobs, etc., qui font partie du pourcentage de très réduit de personnes sur cette terre qui ont dédié leur vie à leur travail et qui finalement avaient un rythme que très peu de gens peuvent te dire. On parle souvent en neurosciences du modèle des survivants, c'est-à-dire génétiquement parlant, c'est des gens qui peuvent absorber énormément de pression, des rythmes de sommeil très peu élevés et des grosses journées de travail, ce qui n'est absolument pas le cas de la majorité des gens. Et ces modèles, comme ils sont finalement exceptionnels, ils sont mis en avant par les médias et on se dit « ok, c'est peut-être possible ». Mais c'est des profils très particuliers, il faut toujours faire attention au biais du survivant, à tous les gens qui ont essayé de faire la même chose mais qui se sont crachés en cours de route, ces gens-là sont nettement plus majoritaires. Donc moi j'ai essayé la semaine de 4 heures, franchement c'est une plaie, enfin moi j'y suis pas arrivé. la journée de 4 heures me semblait être un très bon compromis en termes de lifestyle, déjà, parce que je me suis dit, c'est incroyable, je travaille le matin 4 heures, j'ai toutes mes après-midi pour faire ce que je veux et pour faire cette phase d'exploration et de recherche. Je ne suis pas quelqu'un qui essaye d'éviter le travail dans ma vie et je pense que c'est très important quand on parle de la journée de 4 heures de mettre ça en avant. Moi, je ne suis pas... Souvent, les gens, quand ils rejettent la productivité, ils tombent dans le mouvement de l'anti-productivité. Tu ne me trouveras jamais dans les rangs de l'anti-productivité. Moi, je pense que l'être humain s'épanouit énormément à travers le travail, que si tu nous enlèves le travail de nos vies et qu'on reste à déambuler dans nos journées, au bout d'un moment, on va tomber en dépression, on va péter un boulard. Le but de la vie, c'est aussi de produire du travail dont on est fier, qui a un impact sur les gens. Donc le travail, pour moi, est un socle dans la vie. Et c'est quelque chose qu'il faut valoriser, c'est quelque chose, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on aime travailler et qu'on aime son travail. Moi, le seul truc que je dis, c'est qu'il n'y a pas que le travail. Il y a énormément de choses, la vie regorge de richesses, il y a énormément de choses que l'on peut explorer, que l'on peut apprendre, que l'on peut découvrir en dehors de ces heures-là, et travailler 12 heures par jour nous vole une partie des trésors de cette vie, qu'on ne pourra jamais finalement expérimenter par manque de temps. Donc la journée de 4 heures, c'est le fruit de plusieurs expérimentations, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, compresser une journée de 8 en 4, c'est ce que j'ai été capable de faire malgré moi quand j'ai développé des techniques de productivité à l'époque quand j'étais chef de projet. Je me suis rendu compte qu'à la fin de ma carrière en tant que chef de projet, j'étais capable de faire dans la matinée ce que je faisais dans une journée quand j'étais arrivé en tant que chef de projet, donc je l'ai vu malgré moi, et ensuite j'ai essayé de voir est-ce que ça fonctionnait pour moi, de l'implémenter chez des gens que j'accompagnais, et j'ai vu que ça fonctionnait. C'était un espèce de by-product. À partir du moment où tu as les bonnes fondations et que du coup tu appliques les bonnes techniques en accord avec ces fondations-là, automatiquement ton rythme de travail va se baisser. L'avantage monstrueux que ça a, c'est que ça nous permet d'expérimenter la vie sous toutes ses facettes et de vraiment avoir une productivité au service de sa vie. Tu produis quasiment les mêmes insights. Par contre, à côté de ça, tu as 4 heures de plus par jour pour explorer en masse la richesse de cette vie et donc du coup, avoir des meilleures idées ensuite quand tu reviens dans le travail, avoir un meilleur impact finalement sur ta communauté et tout simplement faire de toi un meilleur être humain, c'est-à-dire passer du temps avec ta famille, passer du temps avec tes potes, pouvoir passer du temps, je sais pas, emmener tes parents en voyage, pouvoir... Vraiment passer des moments qui nous font sentir connectés à la profondeur de notre vie sur Terre et non pas juste être enfermés derrière notre ordi toute la journée à produire du travail, même si ce travail-là, il nous inspire bien évidemment et on n'est pas en train de le subir, on l'adore.
Complètement.
Comment il s'est matérialisé concrètement dans ma journée? Juste pour finir sur cette question, Alex, je file le modèle que j'utilise, qui est le modèle URV, utilise, rempli, vide, mais qui est un modèle qui est bien évidemment adaptable en fonction de ses rythmes d'énergie. On aura peut-être l'occasion d'en parler parce que c'est un débat très important à avoir, la question du rythme d'énergie quand on veut être productif. Moi, le matin, j'utilise mon cerveau, donc je fais du deep work, de la création, de la stratégie. L'après-midi, je remplis mon cerveau. Je fais tout ce qui est sociabilisation, apprentissage, tout ce qui va être surf, rando, discuter avec des potes, lire sur des sujets que je ne connais pas, apprendre de nouvelles compétences, etc., etc. Et le soir, je vide mon cerveau. Je vais faire tout ce qui est journaling, planification, méditation, tout ce qui est finalement analyse de ce qui s'est passé dans la journée pour pouvoir capitaliser dessus et mieux fonctionner le lendemain par ces espèces de micro-boucles d'itération que j'ai insérées dans mon quotidien et que j'apprends aux solopreneurs à mettre en place.
Complètement. Je reviens sur un sujet également que tu évoquais tout à l'heure. Tu cites « on ne naît pas productif, on le devient ». Comment tu expliques l'importance de construire une base saine avant d'introduire des outils de productivité, comme beaucoup font d'ailleurs? Ils vont instaurer des outils, instaurer des méthodes, instaurer des tactiques sur quelque chose qui n'est pas forcément viable. Comment est-ce que tu conseillerais de commencer ce processus à quelqu'un qui, à l'issue de l'écoute de ce podcast, ça fait maintenant presque une heure qu'on est ensemble, a vraiment envie de changer les choses et d'implémenter des éléments dans sa vie? D'ailleurs, je réitère un propos, c'est que on n'a pas encore vraiment parlé de tactique, de méthode, de stratégie ou autre. On est encore sur la base, sur les fondations, sur un état d'esprit autour de la productivité à avoir, même si tu as cité énormément de ressources, énormément de références où on peut justement aller chercher beaucoup, beaucoup de data et de concret dans tout ça. Comment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de commencer ce processus d'augmenter sa capacité à produire au quotidien sans pour autant augmenter son nombre d'heures de travail?
Alors, pour faire ces procédés et rentrer dans des choses très, très factuelles, moi, ce que je conseillerais de faire à quelqu'un qui veut vraiment commencer à installer des bonnes bases, c'est premièrement de définir, comme on en a parlé tout à l'heure, sa vision minimum viable et d'aller commencer à comprendre pourquoi, en premier lieu, il veut être plus productif. Quelle est la grande raison derrière? Il ne faut pas sous-estimer la capacité de notre cerveau à être complètement drivé par un pourquoi. C'est le fameux talk Start With Why de Simon Sinek, qui est un des TED Talks les plus vus de tous les temps et qui a été transformé en livre et que beaucoup de gens connaissent. C'est-à-dire que si le pourquoi derrière tout ce qu'on fait fonctionne, la notion de sens fonctionne, c'est parce que ça parle directement à une zone de notre cerveau qui est responsable de l'action. Donc, il ne faut pas négliger cette partie-là. Déjà, se poser la question de pourquoi aujourd'hui, moi, en tant que solopreneur, je veux être plus productif. Pourquoi je veux apprendre à créer la même chose en moins de temps? Pour passer plus de temps avec ma famille, pour apprendre quelque chose à côté, pour voyager, pour récupérer de l'air dans mes journées, pour prendre soin de ma santé. Qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui me pousse à faire ce premier pas sur ce chemin-là? Ensuite, je me pencherai directement sur l'énergie. On en parlait tout à l'heure, productivité égale temps fois énergie fois attention. L'énergie, c'est un concept qui est clé dans la productivité. Donc, je commencerai par essayer de comprendre quel est mon biorhythme. Et cette notion de biorhythme, c'est une notion qui est essentielle et dont on avait très peu parlé jusqu'à l'ère de l'économie du savoir. C'est la question des chronotypes. On a un gars qui est Scott Adams, qui est un éminent aussi consultant en productivité, entre autres, qui dit que faire correspondre ses tâches avec son niveau d'énergie, c'est le secret de la productivité. Il y a la question des chronotypes, c'est en fait cette question qui explique qu'on obéit tous à des rythmes d'énergie qui sont complètement différents. Il y a le rythme du lion, le rythme de l'ours, le rythme du loup et le rythme du dauphin. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces chronotypes-là, Alec ?
Non, jamais.
T'en as jamais entendu parler ? C'est super intéressant, ça provient d'un livre qui s'appelle « Le pouvoir de Kant », qui a été écrit par un chercheur, un docteur en neurosciences qui s'appelle Michael Bruss, et qui explique qu'en fait, quand on analyse les rythmes d'énergie des individus à travers la planète, tout le monde tombe dans 4 de ces archétypes-là. T'as le chronotype de l'ours, qui correspond à peu près à 50% de la population, et en gros, il a un cycle du sommeil qui suit le soleil, il n'a pas de difficulté à s'endormir, il est au top au milieu de sa matinée, il a un petit coup de mou en milieu d'après-midi, mais il a une énergie assez stable. C'est le chronotype par défaut pour les salariés. Le salariat a été construit autour du rythme de l'ours. Ensuite, t'as le rythme du lion, qui, moi, personnellement, c'est celui dans lequel je suis. Ça correspond à 15-20% de la population selon ce livre-là. C'est des lève-tôt, c'est souvent des fonceurs, des bâtisseurs, des leaders. Et en gros, ils atteignent leur pic de productivité dès qu'ils se lèvent le matin. Ça c'est plutôt stable, on va dire, jusqu'à midi. Et après, ça s'effondre progressivement à partir de midi jusqu'au soir. C'est des gens qui ont tendance à se coucher très tôt et à se lever très tôt. T'as l'inverse du lion, qui est le chronotype du loup. Pareil, 15-20% de la population, plutôt des gens nocturnes. C'est plutôt des écrivains, des artistes, des gens qui sont créateurs, introvertis, codeurs, etc. Et eux, plus ils avancent dans la journée, plus ils sont productifs. Donc, on ne leur demande pas de faire des trucs le matin. Je connaissais quelqu'un quand je travaillais en tant que chef de projet qui était typiquement dans ce cas de figure-là et qui, du coup, n'était pas très productif le matin et travaillait le soir quand il rentrait chez lui pour rattraper le retard qu'il avait pris dans le matin parce qu'il n'arrivait pas tout simplement à se lever. Et ensuite, tu as le chronotype de type dauphin, qui est plus rare et dans lequel je vais pas rentrer parce que finalement c'est plus rare et ça risque de pas trop concerner des gens qui sont des auditeurs qui écoutent le déclic. Mais donc une fois qu'on connaît notre chronotype, et donc il y a un test en ligne qu'on peut trouver facilement pour essayer de trouver son chronotype, j'invite également les gens à faire cette introspection, c'est-à-dire au quotidien d'essayer de comprendre pendant 2 semaines par exemple, de noter toutes les demi-heures sur une espèce de feuille dans quel niveau d'énergie on est, plutôt bas, plutôt moyen, plutôt haut. Et au bout de 2 semaines, on va avoir un espèce de rythme représentatif de comment on fonctionne. Et une fois que l'on sait ça, on peut commencer à jouer à une espèce de Tetris, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer les tâches à impact dont on parlait précédemment dans les moments où on a énormément d'énergie. Donc, par exemple, si je me prends comme exemple chronotype type lion, je vais avoir tendance à faire du deep work le matin. Et ensuite, on va organiser les tâches support autour de nos rythmes low energy. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait comme action ? On n'a pas appris des techniques qui sont très poussées. On a juste appris une seule chose, c'est à faire les mêmes choses dans la journée, mais à les mettre à des moments différents. Et en fonction du moment où on le met, on va avoir une productivité qui n'a rien à voir. Donc, j'invite vraiment les gens à se pencher sur cette question de rythme d'énergie et de faire coller les bonnes tâches au bon moment. Ensuite, pour entretenir l'énergie, j'intégrerai forcément, et je sais que c'est saoulant parce qu'on l'entend à chaque fois, mais une activité sportive régulière. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, si autant d'entrepreneurs en parlent, c'est que vraiment l'activité sportive, elle génère de l'énergie. Elle permet aussi beaucoup plus de résister au stress. On sait qu'il y a de la neurogénèse aujourd'hui quand on fait de l'activité sportive, donc ça permet aussi de prendre soin de notre outil de travail, hein, qui est notre cerveau. Donc j'invite vraiment les gens à intégrer une activité sportive régulière. Et ensuite, à adopter des horaires de sommeil réguliers. Pour la composante énergie de la productivité, si on met en place ces 3 actions déjà, on peut avoir une jolie transformation. Quand on passe sur le domaine de l'attention, donc productivité temps fois attention fois énergie, quand on arrive sur l'attention, j'invite vraiment les gens, et à nouveau c'est souvent parce qu'on en parle tout le temps, mais à intégrer dans leur quotidien une routine de méditation, 5 minutes c'est suffisant. À quoi ça sert cette méditation-là ? Ça sert qu'à une seule chose, c'est comme si c'était de la muscu pour ton cerveau. Tu vas entraîner ton cerveau à se focaliser sur une seule chose à chaque fois en même temps pour sortir de cet esprit de multitasker et entraîner ton cerveau à faire du monotasking. L'attention, c'est vraiment un muscle qui se travaille. À nouveau, c'est pas quelque chose de inné. Donc, on peut travailler cette intention-là. Il y a toujours des résultats qui sont assez impressionnants à voir quand on arrive à se lancer dans des routines de méditation pendant un mois ou deux et qu'on se rend compte après que quand on se lance dans une tâche, on part dans des tunnels de deep work parce qu'on a entraîné notre cerveau à se focaliser que sur une seule chose et à chasser les pensées parasites. Et ensuite, si je devais me pencher sur le temps, et pour finir là-dessus sur les conseils de débutants que je te donnerai qui sont plus concrets, premièrement, j'utiliserai la règle de 3. Ce qui permet grossièrement de donner une espèce de direction dans notre quotidien. Une fois qu'on a défini notre vision minimum viable, comme je l'ai recommandé, la règle de 3, elle invite à se fixer 3 objectifs annuels en accord avec cette vision, puis 3 objectifs trimestriels en accord avec les objectifs annuels, puis 3 objectifs hebdomadaires en accord avec les objectifs trimestriels. Et ce qui fait que chaque semaine, on a un set de priorités clairement définies qu'on peut noter sur un post-it, sur notre bureau, où on veut, et vers lesquelles on va essayer d'amener le maximum d'énergie au quotidien. Deuxième technique, définir ses tâches d'impact. On en a parlé plus haut. Je t'invite vraiment à utiliser en tant qu'auditeur le protocole des 4 questions dont j'ai parlé pour définir tes tâches d'impact. Comme ça, tu sais que tu peux te concentrer dessus. Et enfin, ce que j'appelle la technique EDTF, emploi du temps fixe, qui est une technique que j'emprunte à Cal Newport et qui explique qu'une meilleure façon de contraindre son rythme de travail, c'est de construire ton calendrier de travail autour de ton rythme idéal entre l'effort et la relaxation, entre le travail et le perso. Donc de définir, je commence à telle heure, je finis à telle heure, première action. Et la deuxième action de cette technique-là, c'est de tout faire pour ne jamais rompre cette règle. Et comme dit Cal Newport, c'est à ce moment-là que ça devient difficile, parce que définir un calendrier, tout le monde le fait, mais il faut vraiment développer la discipline de quand on t'arrive à l'heure et que tu es censé transitionner sur autre chose, tu arrêtes et tu reprendras demain. C'est intéressant de faire la partie là-dessus parce que en tant que travailleur du savoir, il faut bien comprendre qu'on aura toujours, toujours, toujours beaucoup plus de travail que ce qu'on sera capable de fournir jusqu'à qu'on crève. Ce sera le cas jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ta to-do, c'est une rivière, c'est pas un seau. C'est pas un seau que tu dois vider, c'est un flux permanent qui s'écoule dans lequel tu vas venir piocher de temps en temps. Si tu attends d'avoir fini un certain nombre de travail avant de te reposer, ça n'arrivera jamais. Donc tu dois développer ce mindset et cette discipline de te dire « je réfléchis en amont » sur la façon optimale de m'organiser, d'être productif. Et une fois que j'ai fait cette phase de planification et de réflexion, quand je suis dans une phase d'exécution au quotidien, j'applique bêtement ce que j'ai défini en amont. Donc quand le gong sonne, je m'arrête. Et je sais que ce comportement d'arrêt va me permettre de tenir sur le long terme dans ce jeu infini qu'est le business et de me permettre de continuer à rester dans le jeu et au fur et à mesure finalement de gagner par défaut parce que je suis encore dans le jeu et que je vais tenir potentiellement plus longtemps que les autres. Voilà un peu, je suis désolé, ça fait beaucoup d'informations et j'ai tendance à beaucoup parler, Alec, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là et j'essaie d'envoyer le maximum de triggers et d'insights pour que les gens à la limite puissent réécouter le podcast et s'attarder sur certains moments et faire leurs recherches à côté et avec les billes que j'ai essayé de donner, quoi.
On est là pour ça et c'est absolument parfait. Merci pour toute la valeur que tu délivres. Je vais rebondir sur un sujet. Tu parlais de surcharge d'informations, je ne sais plus quel terme tu as évoqué justement, mais justement face à la surcharge d'informations et toutes les distractions, quels sont les conseils concrets que tu donnerais aux entrepreneurs pour intégrer efficacement des principes, on va dire de productivité, mais j'irai plus loin, de protection ou de pare-feu face à ces différentes distractions ou ces éléments qui vont te dérouter de ton objectif principal qui est justement, par exemple, le deep work, le fait de pouvoir faire des tâches pendant un certain laps de temps ou autre dans les différentes routines qu'on mettrait en place.
Ok, alors, pour donner tous les comportements que l'on peut avoir, on vit dans l'ère de ce qu'on appelle l'infobésité. C'est une ère qui est sans précédent par rapport à ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre d'informations qu'on prend dans la tête au quotidien, c'est sans précédent. On est noyé sous des informations et des informations qui fait que notre cerveau est complètement à l'ail, quoi. C'est-à-dire qu'il est en état de rupture, on va dire, quasi permanente, c'est-à-dire qu'il est toujours aux limites de ce qu'il est capable de faire. Et cette espèce de rythme d'infobésité, cette ère dans laquelle on vit, ça crée tout un tas d'effets, à la fois en termes neuroscientifiques, mais à la fois en termes mentaux, sur nos cerveaux. Et la seule action que l'on peut avoir aujourd'hui, pour se démunir de ça, c'est de se protéger, de construire consciencieusement des barrières de protection contre cette infobésité. C'est-à-dire que c'est intéressant de le savoir, il ne faut pas tomber dans la malédiction de l'espoir passif, de penser que quelqu'un viendra le faire à notre place. La société ne changera très certainement pas au niveau de cette ère de l'information. On va potentiellement mettre de plus en plus noyé sous cette information. Donc c'est à nous qu'incombe d'installer des routines dans notre quotidien de protection contre tout ça. Première chose que je vois encore aujourd'hui et qui me semble tellement dangereux, c'est de laisser ces notifications. La première action que devraient faire tous les auditeurs qui sont en train d'écouter ce podcast-là, c'est d'enlever toutes leurs notifications de leur ordinateur, sauf les notifications de calendrier, bien évidemment, pour ne pas manquer tes rendez-vous, mais toutes les notifications de leur ordinateur, de leur smartphone et de tout leur environnement digital. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça te permet de passer d'un mindset où les notifications décident à ta place, un peu comme si tu étais l'esclave de tes notifications, on vient te ping et tu décides d'aller regarder ce pour quoi on t'appelle, tu te sors donc du coup de ton rythme de concentration dans lequel tu étais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut 23 minutes, selon une étude de l'Université de Californie, pour se remettre dans les niveaux de concentration pré-interruption. Ce qui veut dire que quand tu as tes notifications ouvertes, à chaque fois que tu reçois une notification de mail ou une notification de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, le simple fait de déconnecter sur ce que tu es en train de faire et de lire la notification, ce qu'on appelle du context switching en neurosciences, ça va te prendre 23 minutes pour retrouver le niveau de concentration pré-distraction. Donc ça, on ne veut pas. En fait, c'est trop coûteux en termes de perte d'énergie et de ressources au quotidien. Donc, on enlève toutes nos notifications et on décide, nous, non pas une machine digitale, quand est-ce qu'on a envie d'aller consulter nos mails, d'aller consulter nos notifications, etc. Donc on va construire cette espèce de pare-feu, ce qui fait que moi, quand je me lance dans une plage de deep work, il n'y a rien qui peut me sortir de mon deep work. Mes notifications sont coupées, mon portable, il est en ne pas déranger, dans une autre pièce, donc je ne peux pas savoir qui c'est qui m'appelle ou qui c'est qui est en train d'essayer de me joindre. Il y a une étude qui était super intéressante qui disait que plus la proximité du téléphone augmente, plus la puissance du cerveau diminue. C'est une étude qui avait été conduite par un gars qui s'appelle Adrian Ward. On peut la trouver facilement sur internet et qui avait fait ce test sur 500 étudiants. Et peu importe, même si ton portable est face retournée sur ton bureau, s'il est dans ton champ de vision, les études montrent que la puissance de ton cerveau a diminué. Donc portable en mode ne pas déranger dans une autre pièce, notification coupée. Et ce qui peut être super intéressant aussi, c'est de se lancer des petits timers. Et donc il y a des timers gratuits qu'on peut trouver facilement sur internet. Tu lances un timer et tu te dis ok, c'est parti, Pomodoro, je me lance pour 20 minutes de concentration. Pendant 20 minutes, il n'y a rien d'autre qui compte. Et j'entraîne mon cerveau progressivement à me concentrer sur la tâche en cours en ayant construit des protections autour de moi. Et ensuite, bien évidemment, il existe des techniques plus avancées où on peut commencer à construire des systèmes qui vont nous permettre de gérer ce flux informationnel. Donc des systèmes d'application de consommation d'articles ou de ressources pour le consommer plus tard, les Read Later App, où quand on tombe sur une ressource, du coup, plutôt que de s'arrêter et d'être noyé dans ce flux d'informations, on va réorienter ce flux-là, faire des espèces de buckets, des seaux dans lesquels on va pouvoir les piocher plus tard. Prévoir des plages dans son calendrier de 15 minutes par jour uniquement sur lesquelles on traite tous nos mails. Passer ce temps-là, on ferme nos mails, on n'a plus aucun moyen de savoir si on en a reçu un ou pas, et on ne fait pas l'objet de ce flux d'informations. Ensuite, créer un système de capture d'inbox, de capture rapide. C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose dans la journée, on a toujours soit une petite feuille en format papier, soit une to-do digitale qui va nous permettre, quand on a une pensée, de l'extraire directement dans notre logiciel de to-do pour se décharger de ce qu'on appelle des boucles ouvertes. Les boucles ouvertes qui nous prennent énormément de bandes passantes, et à l'ère de l'infobésité, des boucles ouvertes, on en a tout le temps. Donc plutôt que de les garder dans notre tête, on va constamment les extraire. Plein de petites techniques comme ça qui nous permettent de nous soulager et de nous protéger. Et donc, c'est un peu difficile de rentrer plus que ça dans les détails sur des formats courts, mais c'est des petites pistes d'action que j'invite les gens à tenter dans leur quotidien et à observer les résultats qu'ils peuvent obtenir.
Complètement. Merci encore une fois pour cette réponse extrêmement pertinente et complète. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est finalement, j'imagine qu'à l'écoute de cet épisode, beaucoup veulent mettre en place plein de stratégies, des routines peut-être, augmenter leur niveau de conscience face à ce qu'est l'efficacité, l'efficience et la productivité, mais surtout la philosophie qu'il y a derrière. De ton expérience, quels sont les différents ou les plus grands challenges que tu as pu observer chez les entrepreneurs ou solopreneurs qui désirent mettre en place de vraies routines de productivité, notamment lorsqu'ils démarrent, et comment les surmonter au travers d'éléments concrets et comment identifier les problématiques auxquelles ils pourraient faire face lorsqu'ils veulent démarrer et s'ancrer dans une première démarche d'augmenter leur productivité optimale.
Alors, les problématiques que j'ai identifiées, moi, elles sont majoritairement d'ordre psychologique et identitaire, en fait. C'est marrant de le dire comme ça et c'est pour ça que c'est intéressant de réaliser que la productivité, c'est ni plus ni moins qu'une question de psychologie. C'est vraiment rien d'autre que ça. Et les problématiques de niveau identitaire et de niveau psychologique, elles sont à plusieurs niveaux. La première, c'est d'accepter que de déconstruire ton identité autour de cette question de l'occupation plutôt que de la productivité, et donc de porter fièrement comme une médaille, on l'avait dit, le fait de multitasker, d'être sur 1000 projets à la fois, d'être débordé. Tu sais, aujourd'hui, moi, je compte plus les gens qui disent cette fameuse phrase quand tu leur demandes ça va, comment ça se passe en ce moment, tout le monde te répond ça va, bon, je suis un peu sous l'eau, et tu sens que les gens, ils disent je suis un peu sous l'eau, comme si finalement ils utilisaient le fait de dire qu'ils étaient occupés comme un badge d'honneur qui prouvait leur valeur dans la société et qui prouvait que c'était quelqu'un de productif, sur qui on pouvait compter, qui faisait des choses, etc., etc. Déconstruire ça, c'est quelque chose qui demande du temps. Arriver à reconstruire une identité autour de l'efficience et de comprendre que si tu veux faire partie des esprits les plus brillants, rappelle-toi que c'était des esprits qui travaillaient 4 heures par jour, c'était pas des esprits qui étaient sous l'eau, c'est des esprits qui avaient énormément d'air dans leur quotidien pour réfléchir, pour penser de façon efficace. Ça, c'est une transition identitaire qui demande du temps, parce que ça demande d'abandonner l'ancienne, de passer par une phase où finalement tu sais plus trop comment te définir avant de reconstruire la nouvelle. Donc cette question de travailler moins, c'est une question, dans un premier temps, où on peut se sentir très coupable et on va avoir tendance à se dire j'ai dit que j'allais faire ça en 4 heures, mais finalement j'ai travaillé une heure de plus, deux heures de plus, c'est pas assez. Qu'est-ce que vont en penser les gens autour de toi si tu n'as pas un écosystème entrepreneurial? Tu vas peut-être avoir des remarques de ta famille, de tes parents, de gens qui vont te dire attends, t'es sûr, est-ce que tu fais pas fausse route là? T'es en train de travailler 4 heures, tu t'es lancé ta boîte, t'as besoin de faire rentrer de l'argent, etc. etc. Et finalement, ces gens-là, c'est pas leur faute, c'est-à-dire que sur le modèle du salariat, on nous a appris à travailler 8 heures par jour, donc forcément, on considère comme des branleurs les gens qui travaillent 4 heures par jour. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est là que c'est ce narratif-là qui est présent dans la société. Malheureusement, on valorise beaucoup trop le temps de travail et pas assez la profondeur du travail. Sachant qu'il y a des gens qui accomplissent en 4 heures, j'en croise tous les jours, infiniment plus que ce que d'autres gens que je connais aussi font en une semaine. Le delta est énorme. Jordan Peterson, il dit, on n'a aucune idée d'à quel point les gens productifs peuvent être productifs. Quand on emploie toutes les méthodes dont on a parlé tout au long de ce podcast-là, c'est incroyable les gains qu'on peut avoir dans le quotidien. Donc, ce travail de rebranding, c'est quelque chose sur lequel les gens ont tendance à se heurter au quotidien. Ils ont tendance à dépasser. La difficulté aussi qu'ils ont, c'est le fait de s'imposer des propres limites. Quand on quitte le salariat, pour les gens qui étaient dans le salariat, je travaille majoritairement avec des solopreneurs aujourd'hui qui ont une activité qui tourne déjà, mais j'ai beaucoup eu l'occasion de travailler avec des solopreneurs qui faisaient une transition. Et quand on quitte le salariat, on quitte un royaume où toutes les limites nous sont imposées, un royaume où plus personne ne nous va les imposer. Or, la performance est dictée par les limites que tu te poses. C'est la loi des contraintes, c'est-à-dire qu'on produit des insights de meilleure qualité quand on est sous contrainte. La nécessité est mère de toute invention, je crois que c'est Platon qui disait ça. Et c'est ce mindset-là, de se dire « Ok, à partir de ce moment-là, c'est moi qui suis responsable, personne ne va me dire quoi faire, comment le faire, quand le faire, quand commencer mes journées, quand prendre mes pauses, quand finir mes journées. » C'est une liberté qui appelle énormément de monde, mais j'aimerais mettre l'accent sur la responsabilité qui va avec. La responsabilité, c'est vraiment d'ériger une structure dans ton quotidien et de ne pas te laisser porter et te dire « Ok, je veux être productif, mais finalement, je vais utiliser 2-3 techniques plutôt que de revoir en profondeur la structure de mes journées, de planifier stratégiquement comment je vais pouvoir fonctionner et de réfléchir en amont sur ce qui fait le plus sens quand je veux être productif. Bon, pourquoi ? Mes tâches d'impact, la capacité à me lancer dans du monotasking, de travailler par tranche de sprint, c'est-à-dire des sprints de 20-30 minutes, puis je me repose 20-30 minutes, me considérer comme un athlète, etc., etc. Toutes ces dimensions identitaires, ce sont des pièges qui peuvent arriver. Et puis alors, le plus gros piège, enfin, c'est pas le plus gros piège, mais c'est vraiment un piège dont je suis obligé de parler ici dans ce podcast parce que beaucoup tombent dedans, c'est le piège de l'objet brillant. Et de vraiment, on en a parlé un peu au début du podcast, cette quête du logiciel, de la méthode, de la technique qui va enfin réduire à néant tous mes problèmes de productivité et qui n'existe pas. Et se faire duper par ton cerveau qui prend un kiff pas possible quand tu rentres sur un nouveau logiciel, mais qui en fait, on confond la dopamine avec l'efficacité de la démarche qu'on s'apprête à entreprendre en fait. Et donc vraiment, j'invite les solopreneurs à ne pas tomber dans ce piège et de se dire que les comportements productifs qui vont avoir de la valeur sur le long terme, c'est des comportements psychologiques, c'est comprendre des modèles mentaux, c'est comprendre la psychologie de la productivité, c'est comprendre les grandes tendances dont on a parlé dans ce podcast-là, et ça n'est pas aller télécharger Notion ou ClickUp ou aller télécharger Todoist ou Evernote et se dire que maintenant qu'on a un logiciel, tous nos problèmes vont être réglés. Le logiciel, ça permet d'appliquer des fondations. Si des fondations ne sont pas existantes, ton logiciel va juste augmenter la puissance de tes fondations qui sont défaillantes. Et du coup, ça va juste se casser la gueule plus rapidement. Donc, se concentrer d'abord sur tout ce qui est fondation.
Complètement. Merci pour tous ces éléments, Sofiane. C'était vraiment hyper intéressant et très riche. Je pense qu'on a vraiment fait une masterclass et ça donne pas mal de pistes à chacune des personnes qui nous ont écoutées, et notamment avec cette conclusion qui est clé, où ce n'est pas un logiciel, une tactique ou une méthode dès lors qu'elle a été acquise qui va faire la différence, mais c'est vraiment une quête de soi et une transformation identitaire qui va faire que vous allez devenir quelqu'un de productif. Avant de se quitter, j'ai effectivement ma dernière question que je pose à chacun des invités du podcast. Mais avant ça, je tiens encore une fois à vous inviter, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode, à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez, que ce soit Apple, Spotify ou une autre, à mettre votre avis Apple Podcast. D'ailleurs, Sofiane, toi qui es un auditeur, j'espère que tu as mis les 5 étoiles et j'espère que tu as mis un avis aussi. À partager. Parfait, moi, génial, à partager cet épisode autour de vous parce que je pense sincèrement qu'il peut apporter énormément de valeur. Et on en fera également un article LinkedIn de façon à ce que tout le monde puisse aussi le découvrir. Et on mettra tes liens, Sofiane, dans la description de cet épisode comme on le fait à chaque fois. Ma dernière question pour toi, finalement, c'est ce fameux déclic. On en a déjà parlé rapidement, mais est-ce qu'il y aurait un autre déclic dont tu n'as peut-être jamais partagé nulle part, en tout cas pas ici encore, qui a littéralement créé, je dirais, une transformation identitaire chez toi? C'est plutôt bien approprié comme terme de par le fait qu'on l'a souvent évoqué dans cet épisode. Ça peut être une situation, ça peut être une frustration, une simple phrase, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif. Peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Ok, alors une réalisation, j'ai déjà parlé de on ne n'est pas productif, on le devient, ça je pense que c'est important. Une réalisation, un déclic que j'ai pu avoir. Si, tiens, sur tout ce qui est théorie, alors en productivité, on utilise aussi beaucoup la théorie des jeux, on se plonge pas mal là-dedans. Et en théorie des jeux, moi, il y a une phrase qui pour le coup colle complet parce que ça a déclenché une transformation identitaire chez moi. C'est que la vie, c'est un jeu de stratégie dont le but est de gérer tes ressources pour construire une réalité dont tu es fier. Et cette phrase, moi, elle m'a percuté quand je l'ai entendue parce que je suis un ancien geek, notamment, et que je sais à quel point les logiques de gamification sont puissantes pour l'être humain, finalement, quand on sait faire levier sur tout ça. Et dans cette phrase, il y avait deux points importants, moi, qui m'ont marqué. Premièrement, c'est que donc dans la vie est un jeu de stratégie dont le but est de gérer tes ressources pour construire une réalité dont tu es fier. Le temps, c'est la ressource la plus importante au début. Donc la clé, c'est apprendre à gérer ses ressources. C'est le temps. Tu dois protéger et le rentabiliser pour vraiment gagner ce jeu parce que c'est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Et la deuxième chose, c'est construire une réalité dont tu es fier, c'est-à-dire que tout le monde joue au même jeu, c'est être heureux et accompli. Il faut vraiment travailler sur ta propre définition du succès. Qu'est-ce que ça veut dire chez toi une réalité dont tu es fier? Selon ton propre référentiel, pas celui de ton voisin, pas celui de la société, pas celui de tes parents, qu'est-ce que pour toi veut dire matérialiser une réalité dont tu es fier? Et quand tu comprends pas, je trouve que la vie est un jeu, tu finis souvent en étant épuisé, aigri face aux challenges qu'on peut t'envoyer, aux boss de fin, à toutes ces logiques-là finalement dans lesquelles tu trouves peu de sens et qui te font du mal. Alors que quand tu comprends que la vie c'est un jeu, ou en tout cas quand tu choisis de croire, parce que c'est une croyance, que la vie c'est un jeu, je trouve que tu vis une aventure qui est enivrante. Le prochain chapitre, il est déjà écrit, hein, c'est-à-dire que les lumières s'éteignent et tu disparais dans le néant. Donc autant remplir le reste avec des histoires épiques d'audace, de liberté, etc. et de penser à prendre du plaisir dans le process en voyant tout ça comme un jeu auquel on joue et dans lequel on va prendre du plaisir, on va prendre du kiff au quotidien, on va trouver du sens et on va avancer vraiment avec la banane, le sourire, en se disant que ben, finalement, en prenant du recul, c'est super cool, on vit à une époque formidable, on a des opportunités de fou, on a la chance de faire ce qu'on aime, de bosser avec des gens qu'on admire, d'être en bonne santé, d'avoir tout ce qu'il faut et de vivre sur un espèce d'immense plateau de jeu géant sur lequel on peut bouger les curseurs de nos ressources pour progressivement matérialiser cette réalité parce qu'on est quasiment complètement au contrôle du lifestyle que l'on veut construire, de la vie qu'on veut se bâtir, et je trouve ça vachement encourageant et vachement kiffant comme message.
Merci Sofiane.
Avec plaisir Alec.